When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline. Ce soir sur CNews, un nouveau meurtre sauvage à Grande-Synthe. Un jeune homme de 22 ans a été tabassé à mort par plusieurs individus sur le parking d'un supermarché. Un mineur a été placé en garde à vue. On va faire le point sur l'enquête. On entendra le témoignage bouleversant du frère de la victime. Vous le voyez ici à l'antenne. Le maire de la ville doit également s'exprimer dans les toutes prochaines minutes. Encore un acte de violence absolue dans notre pays. On va en débattre ce soir. L'insécurité est véritable point noir à 100 jours des Jeux Olympiques. L'ensemble du gouvernement a beau nous dire que la France est prête, on a du mal à y croire. On verra que de nombreux squats sont évacués à Paris pour vider la capitale de ses migrants et de ses SDF. Enfin, l'annulation d'une conférence de la France insoumise à Lille. Une bonne nouvelle pour ceux qui réclamaient son interdiction en raison de la présence d'une association pro-palestinienne dont le logo prône l'éradication de l'État d'Israël. On va entendre toutes les réactions très contradictoires, très controversées à ce sujet. Voilà pour les grandes lignes de nos débats ce soir. Il est 17h. D'abord, le rappel des titres de l'actualité de 17h avec Simon Guilin. Simon.
En Israël, 14 personnes ont été blessées dans une frappe revendiquée par le Hezbollah. L'attaque a eu lieu dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban. Et dans le même temps, la communauté internationale redouble d'efforts diplomatiques pour empêcher une riposte massive d'Israël contre l'Iran. Le plus grand squat de France a été évacué tôt ce matin, situé à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Il a abrité jusqu'à 450 migrants, pour beaucoup en situation irrégulière. Plus de 250 policiers ont été mobilisés pour procéder à cette opération. À 100 jours des Jeux Olympiques, les opérations d'évacuation se multiplient en Île-de-France. Et puis le skipper Philippe Benoiton a été retrouvé mort aujourd'hui au large de l'Espagne. Il participait à une course de voile en solitaire entre le Morbihan et la Martinique. Philippe Benoiton est tombé de son bateau la nuit dernière. Son corps a donc été repêché par les services de secours espagnols, Laurence.
Terrible nouvelle, merci beaucoup Simon Guilin. Le monde de la mer est en deuil. Évidemment, ce sont des vrais aventuriers, c'est des gens qui risquent leur vie et... hommage à ce grand navigateur. Karim Zeribi est avec nous. Bonsoir Karim.
Bonsoir.
André Valigny, avocat ancien ministre. Bonsoir à vous. Bonsoir. On est avec Jean-Sébastien Ferjou, directeur du site Atlantico. Bonsoir.
Bonsoir Laurence. Bonsoir,
le jeune journaliste, directeur de la rédaction du JDD. Et Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité. Ravi de vous avoir tous sur le plateau, même si c'est pour parler de quelque chose d'assez dramatique, puisque il s'agit du meurtre d'un jeune homme de 22 ans. Je vous en parlais il y a un instant à Grande-Synthe. Il a été frappé à mort sur un parking de la ville lundi soir. Il est mort des suites de ses blessures hier. On va faire le point avec Célia Barotte pour voir où en est l'enquête. Et puis on va entendre un témoignage bouleversant du frère de ce jeune homme qui a accepté de témoigner au micro de Fabrice Elster. D'abord les faits avec Célia Barotte.
Lorsqu'il a été découvert dans la nuit de lundi à mardi, le corps inconscient de Philippe présentait plusieurs coups, notamment au visage. D'après les premières remontées d'informations dont nous disposons, il a été agressé par plusieurs individus qui voulaient lui voler son téléphone portable. Les proches de Philippe expliquent qu'il était animateur dans un centre socio-éducatif, qu'il était honnête, généreux, plein de vie, toujours souriant et prêt à aider les autres. Une enquête a d'abord été ouverte pour le chef de tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Une enquête qui a été requalifiée depuis hier soir en meurtre en bande organisée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agression pourrait avoir été commise par trois individus. Un des mis en cause, un mineur, a été interpellé et placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des mis en cause et de pouvoir déterminer les circonstances exactes de ce drame. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le maire de Grande-Synthe a fait part de son choc et demande à ses administrés de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à l'esprit de vengeance. Une cagnotte en ligne a été organisée par les proches de Philippe. Près de 13 000 euros ont déjà été récoltés.
Merci beaucoup Célia Barotte pour ce point. On va écouter le frère de ce jeune homme, de la victime, qui a accepté de témoigner au micro de Fabrice Elster, notre envoyé spécial à Grande-Synthe. Écoutez-le.
Il y a encore des traces de sang, comme vous pouvez voir, il y a encore des traces de sang ici. Et c'est là qu'on a retrouvé Philippe allongé. La tête a été redressée, les bras le long du corps, le pantalon abaissé, les chaussures enlevées. C'est ici qu'on l'a retrouvé. Pour un téléphone, pour une sacoche. Alors que mon frère, il met pas de vêtements de luxe, il met pas de marque, il met rien. C'est débile. Vraiment, c'est débile. Et moi, comme je dis, ce que je souhaite, c'est que justice soit faite et qu'ils prennent perpète.
Voilà, que justice soit faite. Évidemment, c'est ce qu'on souhaite tous. Jean-Christophe Couvy, vous êtes policier. Est-ce que vous avez des informations sur l'enquête qui est en cours ou pas du tout?
Alors non, tout ce qu'on sait, ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il se retrouvait là à 1h, presque 2h du matin. Il était au téléphone. Trois individus lui sont tombés dessus. Alors, il y a une enquête qui part peut-être sur le fait que c'était un guet-apens, qu'il était peut-être sur un réseau social avec une pseudo-femme et qu'il avait un rendez-vous galant. Quoi, voilà. Okay. Et qu'en fin de compte, si le guet-apens tombe dessus, on vole le téléphone, on vole l'argent, le portefeuille. Et en fait, on est prêt à tuer pour un téléphone. Mais c'est la vie humaine aujourd'hui, c'est un téléphone. Voilà. Pour certaines personnes, c'est terrible. Et en fin de compte, on voit qu'il y a une famille qui est endeuillée. La veille, vous mangez avec votre frère, enfin vous échangez, et le soir ou le lendemain, bah, terminé, il n'est plus là, et en fait vous ne comprenez pas pourquoi, parce que la raison elle est tellement futile, en fait, le vol d'un téléphone. Et on voit bien qu'il y a une augmentation des violences gratuites aussi, hein. Des faits de violence en France, c'était 400 000 faits l'année dernière, ça n'arrête pas d'augmenter, et il y a eu ce pic d'augmentation à partir de 2020 et de la Covid. Voilà, donc il y a des choses aussi qui sont passées dans la tête de certaines personnes.
Bien sûr. Et il y a aussi le rajeunissement de la délinquance. André Valény, c'est l'autre chose moi, qui me marque dans cette affaire dramatique. C'est que c'est un mineur qui est en garde à vue. Un mineur qui a tabassé donc, ce pauvre jeune homme pour un téléphone portable.
Oui, la violence est bien sûr très inquiétante. Et notamment par le fait qu'elle touche des gens de plus en plus jeunes. Des mineurs, des mineurs de 14, 15, 16 ans qui sont violents, mais à un point, au point de tuer. Alors, vous dites que c'est un meurtre gratuit. Non, en l'occurrence, ce n'est pas gratuit. Si la piste se révèle la bonne, c'était pour voler le téléphone. C'est arrivé récemment dans mon département de l'Isère. La victime en a réchappé, mais c'est pareil. Cette victime était tombée dans un guet-apens, d'un rendez-vous galant sur Internet. Et puis, le rendez-vous s'est mal passé puisque c'était un guet-apens. Alors, les statistiques, les criminologues, les spécialistes, disent qu'il y a moins de meurtres aujourd'hui, d'homicides, qu'il y en avait il y a un siècle en France. Non, mais les statistiques le disent, en tout cas. Le problème, c'est que ces meurtres sont connus maintenant, sont médiatisés, et heureusement, et qu'on ne supporte plus cette violence à juste titre, a fortiori quand elle touche les plus jeunes, ce qui est le cas. Pourquoi les jeunes sont-ils de plus en plus violents? Là, les explications sont nombreuses. Il n'y en a pas une qui l'emporte sur les autres. Moi, je mets toujours
Est-ce que vous faites un lien avec la baisse du niveau de lecture, la baisse du niveau de l'éducation et la montée de la violence chez les mineurs, notamment?
Il y a une baisse générale de la culture, de l'éducation. Il y a aussi, à mon avis, le consumérisme à outrance, l'envie de posséder des marques, des choses de marque, des choses, des vêtements, des téléphones. Il y a les réseaux sociaux. Je sais bien qu'on me reproche parfois de tout mettre sur le compte des réseaux sociaux. Je ne paie pas tout sur le compte des réseaux sociaux. Mais je pense que cette violence qui circule sur les réseaux sociaux, sur Internet, toutes ces vidéos ultra-violentes...
Vous pensez que ça désinhibe? Parce que la violence, elle existe. Moi, je ne pense pas que c'est les réseaux sociaux qui la créent. Elle existe, elle est entre chacun d'entre nous. Après, il y a la civilisation qui fait qu'on est éduqué, on sait ce qui est bien, ce qui est pas mal, ce qui est mal. Et moi, j'ai le sentiment que les réseaux sociaux amplifient ça.
Alors, ils amplifient, ils désinhibent.
Mais on n'a pas les garde-fous. On est complètement impuissants.
Je pense qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation, le soutien à la parentalité, le soutien aux enseignants.
Et la répression aussi.
Et la répression.
Il faut qu'il y ait des sanctions.
Sur les réseaux, sociaux, en fait, effectivement, ça amplifie. Et surtout, c'est que les gamins très jeunes ont accès à de la violence gratuite sans explication. Oui. C'est-à-dire, vous allez voir des bagarres entre bandes, vous allez voir des gens décapités, des choses affreuses. Et les gamins, ils tombent dessus à 5 ans, 7 ans, 10 ans.
Sans parler de comment ils ont un téléphone portable dans les mains à 5 ans et 7 ans?
Parce que les parents leur donnent.
C'est les parents qui sont dingues.
Et puis surtout, c'est qu'il y a des pays où TikTok, par exemple, est interdit, ou alors c'est filtré. Oui. Et chez nous, c'est open bar.
En Chine.
Et donc, c'est ceux qui l'ont créé qui se l'interdisent, bizarrement. Donc on se demande si même des fois, sans tomber dans
la
parano, si c'est pas fait exprès pour déstabiliser.
C'est la question que pose le Congrès américain en considérant qu'il y a clairement, et pas seulement à travers TikTok, mais qu'il y a clairement des tentatives de déstabilisation des sociétés occidentales via les réseaux, via les en tout cas via la manipulation des algorithmes des réseaux sociaux, parce que je pense qu'il faut distinguer les réseaux sociaux des algorithmes, de la manière dont ils fonctionnent. Ils pourraient fonctionner différemment si on avait plus d'exigences sur les algorithmes.
Là, c'est important de le rappeler. Là, on ne sait pas encore si c'est en raison des réseaux sociaux, non, non, si la piste est qu'on vous confirme ou pas. Ce qu'on voit, c'est de la violence pure et dure, Karim, avec un môme de 22 ans qui est laissé sur le carreau.
Même si on ne connaît pas les motifs, on ne peut être qu'abasourdi par cet acte criminel. Je veux dire, parce qu'on se dit que finalement, la vie ne tient qu'à un fil. Et je dirais même que la vie n'a pas de valeur pour certains individus. Donc être capable de se rendre sur un parking et de frapper à mort un adolescent ou un individu pour un téléphone portable, ou même je ne sais quelle autre raison, à la limite, il faut qu'on arrête d'essayer d'aller chercher des justifications à ce genre de comportement. Il n'y en a pas. Et il ne faut pas que nous en cherchions. Donc ce qu'il faut que nous fassions, c'est qu'on essaye d'anticiper pourquoi il y a autant de violence chez les plus jeunes et qu'on sache derrière qu'est-ce qui va se passer pour ces jeunes-là qui ont commis cet acte. Est-ce qu'on va être en mesure d'avoir une réponse à la hauteur de l'acte ? C'est ce que dit son frère. Mmh. Mais imaginez-vous le frère, dans quelle situation il est. Mmh. Il était avec son frère il y a quelques heures et quelques heures après, on lui dit que son frère a été frappé à mort. Je veux dire, alors que bon an mal an, c'est un garçon qui certainement n'a rien de dangereux et n'a rien fait de mal. Donc on lui tombe dessus comme ça, et en quelques heures, votre vie bascule, votre vie personnelle, votre vie familiale. Tout dire, c'est catastrophique.
Mais bien sûr. Je ne sais pas si on a un autre extrait du témoignage de ce jeune homme qui s'est confié à Fabrice Elsner, notre envoyé spécial, mais j'aimerais bien qu'on l'écoute avant de vous passer la parole, Geoffroy et Jean-Sébastien. On écoute le frère à nouveau de cette victime.
Je ne comprends pas pourquoi une telle humiliation. Alors que Philippe, c'était une personne qui était vraiment souriante, qui n'avait jamais de problème. Il était toujours là pour aider les gens, tout le monde a un service, il n'y avait pas de soucis. Des fois, tu dis, je prête ma voiture, va là-bas, non, je vais à pied. Toujours une personne connue de tout le monde, sans grand problème. Donc on est là, je dis, pourquoi lui ? Et pourquoi ces hommes se sont acharnés comme ça dessus ? C'est vraiment incroyable.
Je prends le jeune, évidemment la consternation et aussi la révolte. Quand est-ce que ça va s'arrêter, ce cycle de violence ?
En tout cas, je trouve que ça commence à faire beaucoup pour un sentiment d'insécurité. Je dis ça volontairement un peu de manière provocante, mais on a encore des responsables politiques, et notamment le garde des Sceaux, qui minimisent un peu ce phénomène, alors que c'est maintenant devenu depuis quelques...
Il dit moins le sentiment d'insécurité. Hein. Il a un petit peu quand même fait attention. Hein.
Non, il l'utilise plus aujourd'hui parce qu'il est malin, mais il l'a dit, il l'a dit quand il était en poste, c'est-à-dire il y a quelques temps, au moment où on lui mettait justement cette addition de faits divers sous le nez, qui finissent par ne plus ressembler à un fait divers, mais à un fait de société. Si vous voulez, on pourrait commenter tous les jours ce type d'agression. Il y en a des dizaines par jour. Il n'y a pas des dizaines de morts, Dieu merci. Premièrement, ça, c'est le déni de certains responsables parce qu'ils veulent pas assumer et puis être confrontés au fait qu'ils mettent pas en place de politique pénale en face. Premièrement, deuxièmement, vous le disiez, enfin, CNews mettait son bandeau tout à l'heure sur son bandeau La France Orange Mécanique. Il y a plus de 10 ans maintenant, quand Laurent Oberton a sorti le livre La France Orange Mécanique, il s'est fait tomber dessus par quasiment tout le monde, sauf à l'époque Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, qui lui avait la réalité sous les yeux.
Xavier Bertrand.
Non, mais alors, c'était surtout le gouvernement de l'époque à gauche. Mais au sein du gouvernement, Manuel Valls avait défendu, avait dit que le livre était intéressant parce qu'il avait la réalité sous les yeux, donc il voyait de quoi on parlait. Moi, je suis d'accord avec André Valigny sur l'éducation, sur le fait que, en fait, on voit bien que ce genre d'affaires prouve que c'est une société qui dysfonctionne dans son ensemble. C'est pas juste un épiphénomène d'une bande qui a dégénéré. C'est tellement, tellement souvent et tellement partout que. Mais je pense que. L'éducation, ce sera indispensable, et la répression aujourd'hui est peut-être le moyen. En fait, il faut faire peur à ces gens.
Alors, on écoutera tout à l'heure Éric Dupond-Moretti qui dit qu'il va proposer un nouveau projet de loi pour des mesures fermes sur les mineurs délinquants. Juste un tout petit mot de Jean-Sébastien Ferjou. Vous dites que l'État devrait être traîné en procès pour inaction régalienne, c'est ça ?
En tout cas, quand on voit que l'État a été condamné pour une action climatique, finalement, je ne vous dis pas que les défis environnementaux ne sont pas importants. Simplement, il y a des politiques qui sont mises en œuvre. La France est une des bonnes élèves, justement. Tout est toujours une question de relatif. Hein, une des bonnes élèves de tous les pays occidentaux en matière, justement, de réduction, de trajectoire de réduction des émissions carbone. En revanche, sur le régalien, je ne crois pas... C'est une boutade. Hein, c'est une boutade parce qu'effectivement,
la sécurité,
de toute façon, ça n'est pas en attaquant l'État.
C'est ça ? Le régalien, ce que vous appelez, c'est la sécurité et la défense ?
Oui, il y a une vraie inaction gouvernementale de facto sur le régalien. On voit bien que la situation
ne cesse
de
se détériorer. Inefficacité de l'action. On ne peut pas dire inaction. Il y a les policiers qui sont là, ils sont tous les jours au
travail. Non, mais bien sûr, les policiers, je vous parle là en termes de responsabilité majorité politique dans les choix qui sont faits. Vous évoquiez le nouveau projet de loi qu'envisage le garde des Sceaux, mais il reste totalement inspiré de l'idéologie qui est la sienne et qui est peu ou prou la même que celle de Mme Belloubet, qui était proche de celle de Mme Taubira ou de Mme Guigou. Et quand M. Valigny nous dit « Oui, vous avez raison, les chiffres n'ont pas augmenté si on le compare à il y a 100 ans », mais enfin, ça n'a pas beaucoup de sens pour des Français qui vivent aujourd'hui. Et surtout, on oublie toujours autre chose, ce sont les progrès de la médecine d'urgence. C'est-à-dire qu'il faut comparer pas seulement les homicides, mais il faut comparer les homicides plus les tentatives d'homicide. Parce que quand vous regardez les tentatives d'homicide, ça a absolument explosé. Parce que la différence par rapport à il y a 30 ans, par exemple, c'est qu'il y a 30 ans, vous mouriez d'un coup de couteau. Aujourd'hui, heureusement, nous parvenons à sauver beaucoup de gens. J'en parlais encore récemment avec des médecins dans des services d'urgence qui disaient que dans les années, enfin, il y a encore pas si longtemps que ça, il était relativement rare de voir des victimes de coups de couteau. Maintenant, c'est systématique. Ah, c'est quasiment tous les jours. Et dans toutes les régions de France. Hein,
oui,
dans
oui,
toutes
les régions de France. On ne dit pas que c'est que dans les métropoles. Hein.
En fait, en 2020, on s'était arrêté à 120 agressions au couteau par jour. Mais depuis 2020, il n'y a plus d'observatoire de la délinquance et la réponse pénale. Bizarrement, tour de passe-passe, allez hop, vas-y que je t'endors. Et donc, du coup, on est un peu aveugle. Alors, bien sûr, les services de police qui sont quand même très statistiques, hein, on n'arrête pas toute la journée de faire des stats et des rapports et des retours d'informations. Donc, on le sait à Beauvau combien il y a d'attaques au couteau. On sait qu'il y a un gros problème, mais on ne veut pas trop en parler parce que, bah oui, c'est pas porteur.
André Valigny, c'est la gauche qui a théorisé cette culture de l'excuse.
Bon, une partie de la droite aussi. Hein.
Oui, mais enfin, c'est quand même la gauche.
Hein. J'ai jamais fait partie de cette gauche, si tant est qu'elle existe.
Mais je vous demande si vous avez le sentiment
si elle existe, Madame
Taubira, responsabilité de la gauche.
Non, il y a parfois des gens à gauche, et j'en fais partie, qui essayent d'expliquer ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Mais entre l'explication et l'excuse, il y a quand même une différence. Moi, je suis pour la répression la plus sévère lorsqu'elle est nécessaire. Et si on retrouve l'assassin de ce garçon, il faut évidemment...
Il y a un mineur en garde à vue.
Il y a un mineur en garde à vue. Si c'est lui, et s'il est prouvé que c'est lui qui a commis ce crime, il faut qu'il soit condamné à une peine très sévère. La réclusion criminelle, 15 ans, 20 ans, les jurés apprécieront. Mais est-ce que pour autant, ça empêchera d'autres mineurs de son âge, de son quartier, de sa ville, de sa région, de recommencer et de faire la même chose? Vous savez, la valeur dissuasive de la peine, elle est relative. Souvenez-vous qu'au Moyen-Âge, je suis pour la répression, que ce soit clair, je le redis, je suis pour la peine la plus sévère possible.
Okay, mais alors,
pour l'empêcher
Moyen-Âge...
de nuire, pour qu'il essaie de s'amender et pour le mettre hors de la société, pour qu'il ne recommence pas pendant longtemps. Mais au Moyen-Âge, devant le gibet où on pendait les voleurs, c'est là qu'il y avait le plus de voleurs qui venaient voler dans les poches de ceux qui assistaient à l'exécution.
Et alors ?
Donc, la dissuasion de la pendaison, elle était
quasi nulle. Dieu merci, nous n'y sommes plus. Nous sommes plus au Moyen-Âge. Dieu merci. Karine, je vous ai vu réagir quand Jean-Sébastien parlait.
Non, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, moi, c'est bien d'opposer la droite et la gauche et d'essayer effectivement de faire un débat politique. Si, parce que vous disiez effectivement que Dupond-Moretti était assez laxiste dans son approche.
Moi, l'écouter.
Je crois qu'il est peut-être arrivé aux responsabilités avec une approche assez laxiste devant le principe de réalité. Je trouve quand même que son discours a évolué, et il faut quand même le reconnaître aussi. D'ailleurs, aujourd'hui, il se présente aux côtés du ministre de l'Intérieur qui n'a pas un discours qui est mollasson, qui a un discours plutôt offensif sur les questions de répression.
Ils n'ont pas la même vision.
Et donc, du coup,
ils n'ont pas la même vision.
Si,
quand vous regardez
aujourd'hui, ils affichent la même vision.
Regardez le détail des deux réformes qui ont été votées en 2021.
Alors après que vous disiez le contraire, est une chose.
Pas la même vision.
En tout cas, ils affichent la même vision. Et ils affichent la même vision, mais ce travail-là est un travail qui doit s'inscrire dans la durée. L'incantation ne suffit pas. On l'a dit suffisamment autour de ce plateau. Quand vous avez 50 centres d'éducation renforcée, je le dirai à chaque fois.
54.
Alors que nous avons 100 départements et une explosion de la délinquance des mineurs. Donc on se dit que nous n'avons pas la réponse répressive. Et en amont, effectivement, est-ce qu'on peut détecter mieux qu'on ne le fait la violence dès le plus jeune âge pour ne pas laisser ce que Jean-Pierre Chevènement appelait les sauvageons de la République, donc des jeunes grandir dès l'école maternelle, l'école primaire, au collège et devenir des délinquants de puissance qui se saisissent d'armes blanches ou même d'autres armes pour les utiliser. Il faut qu'on fasse ce travail-là. Oui, c'est un investissement humain, mais cet investissement humain, donc, il fera du bien à la société. Aujourd'hui, nous ne mettons pas le paquet, donc on fait des constats politiques, on a de l'incantation politique, on a une forme de volonté affichée, mais derrière, on ne se donne pas les moyens de parvenir à obtenir des résultats.
On va écouter Éric Dupond-Moretti, parce que vous l'avez rappelé, il s'est présenté après le Conseil des ministres avec Gérald Darmanin pour parler du bilan des opérations anti-drogue et notamment des opérations PlaceNet. Il a aussi parlé donc de ce projet de loi sur les mineurs délinquants. Écoutez-le.
Nous allons faire un certain nombre d'annonces et nous allons porter un projet de loi concernant justement la façon dont on doit appréhender les mineurs qui commettent des actes de délinquance. Mais il y aura, je l'indique et je n'en dirai pas plus à ce stade, à la fois bien sûr un volet éducatif et répressif, et aussi nous allons venir en aide aux parents qui sont des parents dépassés. Et en revanche, nous allons faire en sorte de sanctionner les parents défaillants.
C'est intéressant ce discours. Ça fait des années qu'on nous le sert. Des années, 30 ans. Hein, on nous dit on va durcir la loi pour les mineurs, on va baisser l'âge de la majorité pénale, on va s'occuper des parents, on va sanctionner.
Mais surtout,
ça ne change rien. Ça ne change rien.
Surtout sur les parents, je veux dire, moi, je trouve ça quand même assez choquant en réalité.
Pourquoi ?
Quand l'État a non, mais pas parce qu'il ne faudrait pas responsabiliser
les
parents.
Responsabiliser,
mais ça existe déjà dans le code pénal. Ça existe déjà. C'est pour ça que je vous disais que la proposition, le projet de loi,
c'est très peu appliqué. J'en sais pas si vous le savez très bien.
Je sais bien que ça n'est pas appliqué. Je dis juste que le garde des Sceaux n'a en rien changé d'idéologie puisqu'il se contente de répliquer quelque chose qui existe déjà et qui n'est pas appliqué et qui ne se pose pas la question de la raison pour laquelle ça n'est pas appliqué, pas plus qu'il ne fait, qu'il ne tire le bilan de la réforme de la justice des mineurs qui a eu lieu en 2021.
Mais rien ne change.
Quand je vous disais sur la responsabilité des parents, moi je trouve ça choquant parce que quand l'État abandonne des territoires entiers à des dealers, par exemple, quand vous êtes un parent, Laurent, si vous habitiez dans une tour HLM, dans un quartier abandonné par la République, ben, je trouve ça gonflé qu'on vient de vous dire vous élevez mal vos enfants. Parce que comment faites-vous pour bien... Alors certains y arrivent, hein, certains y arrivent et ils sont absolument remarquables. Mais la République les a abandonnés, c'est un fait incontestable. Okay. Quant à d'autres qui vivent dans des quartiers moins défavorisés, ben, là, c'est la justice qui ne fonctionne pas et qui refuse de fonctionner face aux mineurs parce que c'est un dogme et c'est un dogme partagé par toute une partie de la magistrature.
Bah, alors sur la loi sur les parents, alors effectivement de temps en temps je dis que ça peut marcher parce qu'il y a aussi des familles entières qui sont délinquantes, hein. Le père est délinquant, il entraîne aussi les enfants dans la délinquance et enfin je veux dire c'est bien organisé, ça reste marginal. Bon, attention, je fais pas le cas de toute la jeunesse. Et déjà il y a aussi des enfants qui n'ont pas de parents, c'est les oncles, les tantes, c'est la famille qui élève les enfants, parce que c'est ça aussi, hein. À la Mayotte, vous allez voir, allez trouver les parents, vous. Bah, c'est compliqué de trouver des parents.
C'est très particulier, Mayotte.
C'est particulier, mais vous allez à Limoges. Vous allez à Limoges, vous avez des communautés, c'est très particulier et difficile de trouver les parents aussi, parce que les parents, ils sont repartis. Oui, ils laissent les enfants ici, qui sont enlevés par les oncles et les tantes. C'est très particulier. Nous, on le voit dans le, et encore une fois, c'est nos collègues nous le disent, bah, c'est compliqué parce que, justement, il n'y a pas une vraie structure familiale. Et quand vous n'avez pas une vraie structure familiale, c'est compliqué de donner des valeurs. C'est compliqué de dire là il faut faire, là il faut pas faire.
Non, ok. Karim, vous voulez réagir ?
Non, mais je suis assez d'accord avec Jean-Sébastien Ferjou pour le coup que sur la situation.
On le note, c'est rare.
Oui, mais je pense qu'il ne faut pas être dogmatique dans la vie de son côté et du mien. Lorsqu'on a des accords, il faut aussi en faire état, qu'on n'est pas là que pour s'opposer. Il a raison, il y a eu un abandon de centaines de quartiers où vous avez aujourd'hui des gangs qui tiennent les cités. Donc quand vous élevez votre enfant qui ne peut même pas descendre donc en bas de votre entrée parce que sous prétexte effectivement qu'il se fasse enrôler donc dans la délinquance, la qualité de vie que vous avez, si vous ne partez pas en vacances,
j'entends,
vous êtes dans une cage à poules qui est un HLM. Donc, ce que je veux dire par là, on n'est pas en train de trouver des excuses.
Ce qui est paradoxal, c'est que vous dites l'État a abandonné certains quartiers. Et en même temps, l'État a donné énormément d'argent à ces quartiers
oui,
à travers l'ANRU et la rénovation de l'habitat.
Mais
c'est paradoxal, les Français ne comprennent pas
allons-y,
ça. En fait.
Allons-y sur ce que l'État
a
donné.
On ne comprend pas.
Quand vous regardez que vous décortiquez les gens sérieux qui l'ont fait en matière de politique de la ville, c'est sur la rénovation urbaine principalement.
Okay.
Ce n'est pas sur l'humain. Or, aujourd'hui, de quoi parle-t-on ?
On est en train de parler
d'encadrement d'adultes, d'éducateurs, de présence humaine, donc de prise en charge de ces jeunes errants. Ça a été complètement oublié. On l'a mis de côté. Et du coup, on a mis des milliards dans la rénovation urbaine. C'est bien, il fallait le faire. Mais ça ne suffit pas. Ce n'est pas parce que vous passez de l'horizontal au vertical, du vertical à l'horizontal, que les choses vont bien se passer.
Si vous laissez les mêmes gens au même endroit.
Si vous laissez les mêmes gens au même endroit, si vous avez.
Ça changera.
Je veux dire, un sentiment de déshérence. Et encore, moi, je ne cherche pas d'excuses. Il faut aussi qu'on nous explique.
Vous n'êtes pas de la faute de l'État non plus.
On n'est pas dans la culture de
l'État. Non, mais bien sûr.
André Vallini, attends, André Vallini, vous voulez rajouter quelque chose ?
Oui, ce que vient de dire Karim est tout à fait juste. Moi, je l'ai vécu dans mon département. On le voit un peu partout depuis 30 ans. La politique de la ville a commencé il y a une trentaine d'années à peu près. On a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent et il fallait le faire dans la rénovation de l'habitat. On a détruit des tours, des bars, on a reconstruit des immeubles plus petits et il fallait le faire. Et c'est très réussi en général. Mais ça n'a pas suffi
parce qu'on a enlevé, on a fermé des MJC, on a fermé des centres socioculturels, on a supprimé des animateurs. Je sais qu'on s'est beaucoup moqué des animateurs socioculturels.
Ceux qui jouent au football avec les jeunes, oui.
Oui, mais justement...
Non, la culture aussi, on parlait de la culture. Oui, excusez-moi, quand on était gamin avec Gad Bobelin, il y avait une bibliothèque. Oui. Donc on allait faire nos devoirs.
Mais il y en a aussi. Donc,
oui, mais
il y en a, là.
Mais aujourd'hui,
elles sont brûlées.
Aujourd'hui,
dans les émeutes, elles sont brûlées.
Il y a des émeutes ou les bibliothèques, mais moi, je peux vous... venez dans les quartiers. Vous verrez s'il y a des bibliothèques.
Ce qui gangrène ces quartiers, le seul vrai problème structurant, si j'ose dire, c'est la drogue. Parce qu'au lieu d'aller jouer au foot ou d'aller lire un livre, ils préfèrent aller dealer de la drogue qui leur apportera des milliers d'euros chaque semaine.
Le problème de la violence, c'est beaucoup plus profond.
Alors,
ça, y compris dans des quartiers, dans des milieux sociaux dans lesquels il n'y a pas de grave.
Dernier mot, c'est bon, vous avez terminé.
Non, c'est la drogue, pour moi, c'est la drogue.
On y revient dans un instant, juste après la pause, mon cher Jean-Sébastien. On y revient, on parlera du trafic de drogue et on parlera aussi de cette évacuation du plus grand camp de migrants de France. Tout ça, c'est dans le cadre des Jeux Olympiques. On essaie de nettoyer la capitale à 100 jours des JO. A tout de suite. 17h30, on se retrouve avec grand plaisir dans Punchline sur CNews. Avant de parler de la sécurité et des JO, le rappel des titres de l'actualité avec Simon Guillain. Simon.
Les opérations antidrogue PlaceNet XXL ont permis l'interpellation de 3814 personnes. Une annonce faite aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 600 individus ont été présentés à un juge et près de 200 ont été incarcérés. Éric Dupond-Moretti a salué la coordination des différents services de l'État qui, selon lui, a porté ses fruits. 4 jours après l'attaque de l'Iran sur Israël, l'Union européenne et les États-Unis préparent de nouvelles sanctions contre l'Iran. L'objectif est d'endiguer et de détériorer les capacités militaires du pays, a affirmé le conseiller à la sécurité de Joe Biden. Et puis la guerre en Ukraine, au moins 14 personnes ont été tuées dans une frappe russe sur une grande ville dans le nord de l'Ukraine. 60 personnes ont également été blessées lors de cette offensive. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois évoqué le manque d'aide des pays occidentaux, Laurence.
Merci beaucoup Simon Guillain. On va parler de la sécurité et des Jeux Olympiques. Pendant la pause pub, on se disait tous, notamment vous André Valény, je suis très inquiet sur la tenue de la cérémonie d'ouverture des JO, carrément.
Oui,
aussi,
non, mais voilà. Moi je dis depuis 15 jours au moins, notamment sur le plateau CNews, qu'il faut renoncer à la cérémonie sur la Seine. On s'entête, il y a une espèce de point d'honneur qui est mis, je ne sais pas si c'est par Emmanuel Macron ou par Anne Hidalgo, je crois que c'est les deux, pour une fois ils sont d'accord. Ils ne veulent pas lâcher cette idée qui est très très coûteuse aujourd'hui même. Je pars sous contrôle de notre ami policier. Il y a des policiers qui sont en train de frapper à toutes les portes de tous les étages, de tous les immeubles sur le parcours du début jusqu'à la fin.
Donc sur tous les bords de Seine. Hein.
Sur tous les bords de Seine,
des kilomètres
à tous
carrés,
les étages, appartement par appartement, sans être sûr qu'au mois d'août, ce seront les mêmes personnes qui occuperont ces appartements. Tout ça demande un investissement considérable, des moyens considérables. On aurait fait ça au Stade de France, ça pouvait avoir beaucoup d'allure et c'était aussi bien.
Alors avant de continuer à en parler avec vous, notamment Jean-Sébastien.
Non seulement ça demande des moyens considérables.
Qui n'attendra donc pas, mais allez-y.
Non mais juste d'un mot, et je laisse la parole à Jean-Christophe. Non seulement ça demande des moyens considérables, mais il y a de vrais doutes qui se posent sur la sécurisation des données en question. Et c'est un vrai enjeu de liberté publique. Il me semble que le principe qui doit prévaloir, c'est la proportionnalité entre l'efficacité qu'on peut attendre d'un dispositif et l'atteinte aux libertés publiques.
J'aimerais qu'on parle donc de la sécurité par rapport aux Jeux Olympiques, avec un dispositif de sécurité qui n'est pas tout à fait au point, d'après ce qu'on a compris. Protocole budgétaire pas au point, plan de secours mal préparé pour l'ouverture, la cérémonie d'ouverture. Il y a encore beaucoup de travail. On fait le point avec Michael Dos Santos et je vous passe la parole.
Radar, caméra et brouilleur, voici Parade, le bouclier anti-drone des Jeux Olympiques. Lors de sa présentation dimanche dernier, tout fonctionnait sans accroc.
On le bloque, tac, qu'est-ce qu'il fait ? Il reste en place ?
Les tests réalisés grandeur nature se sont eux avérés moins concluants. Mi-mars à Paris ou encore à Marseille, plusieurs drones ont été interceptés mais dans un trop faible périmètre. Une confidence faite par une source sécuritaire de haut niveau.
C'est embêtant que cela sorte publiquement, mais oui, malheureusement, contrairement au discours officiel, tout ne fonctionne pas vraiment comme on le voudrait.
Le budget sécurité des Jeux Olympiques s'est lui aussi envolé. La facture est passée de 300 à 500 millions d'euros, soit 200 millions supplémentaires en l'espace de quelques mois. Un budget qui pourrait néanmoins être revu à la baisse, tout dépendra de la tenue ou non de la cérémonie d'ouverture sur la Seine. Mais là encore, Emmanuel Macron s'est montré évasif.
On fera une analyse des menaces en temps réel. On a des scénarios de repli, il y a des plans B et des plans C. Pour tout vous dire, on a une cérémonie qui serait limitée au Trocadéro, mais aussi qui pourrait être rapatriée au Stade de France.
Au total, 35 000 policiers et gendarmes, 18 000 militaires et 20 000 agents privés vont être déployés pour protéger les sportifs, les journalistes et les centaines de milliers de touristes. Pour le moment, aucune menace caractérisée n'a été identifiée.
Enfin bon, aucune menace caractérisée. Et il y en a beaucoup qui planent sur cette cérémonie d'ouverture. Mais moi, j'ai peut-être l'esprit de contradiction. Plus on me dit « on est prêt, tout va bien », plus j'ai peur, en fait. Mais voilà, c'est pas pour ça qu'il faut renoncer. Moi, je pense qu'il faut que cette cérémonie, elle soit belle, elle permette à la France de rayonner. Écoutez, j'en sais rien. Les policiers, moi, je fais confiance aux policiers et aux gendarmes qui vont assurer la sécurisation de la manifestation.
Moi, je fais confiance à mes collègues, hein, parce que de toute façon, on va sacrifier toute notre vie sociale et nos vacances cet été pour la bonne réussite des JO. Mm-hmm. On a su organiser aussi quand même des grandes compétitions. On a déjà accueilli le monde entier sur des Coupes du Monde, etc. Mais bon, là, c'est vrai qu'on a quand même un défi.
Mouse costaud.
Alors, on sait, en filigrane, ça y est, on a un plan B, un plan C.
Très années 80, ça.
Nous, en fait, les policiers, ça fait longtemps qu'on a un plan D. C'est démerdez-vous, mais faites ça bien. Voilà, oui. C'est le plan D. Et donc, on a l'habitude travailler avec très peu de moyens et toujours.
Mais là, vous serez tous sur le pont, en fait.
Mais on sera tous sur le pont. Et bien sûr qu'on veut que ça se passe bien. Alors après, moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est que ça fait 7 ans, je crois, qu'on sait qu'on a les Jeux. Et que là, on commence à transpirer à 100 jours des Jeux. Donc, on se demande, mais est-ce que en France, est-ce que dans notre pays, est-ce qu'on sait anticiper les grands événements? Est-ce qu'on sait anticiper les choses ou pas? Ou est-ce que c'est que du doigt mouillé? Ben moi, aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire que les policiers, ils savent pas où ils vont dormir, ils savent pas comment ils vont monter à Paris en renfort. On n'a toujours pas. Enfin, c'est les gamelles et les bidons.
Les hôtels sont vides, donc.
Non, mais c'est les gamelles et les bidons. Mais pour l'instant, à 100 jours, on n'a rien.
Qui est comme...
Le sujet n'est pas forcément d'être inquiet ou pas inquiet. C'est simplement.
Un peu quand même, Jean-Sébastien.
Non, mais je vais vous dire pourquoi. Non, mais sur l'aspect strictement sécuritaire, c'est l'avis des experts en sécurité. S'agit-il d'un risque véritablement à considérer ou non? À partir du moment où ça a été annoncé, c'est aussi céder en quelque sorte au terrorisme, parce que le terrorisme, c'est aussi impacter nos débats en permanence dans le quotidien, que d'en parler déjà d'une part tous les jours, et que de donner l'impression que finalement on n'est pas capable de faire face à la menace, parce que dans l'absolu, il n'y a pas de sécurité parfaite. Les drones, il y a des sénateurs qui ont posé des questions très précise à ce sujet-là sur le risque d'attaque par drone. Vous pouvez être au Stade de France qu'il y ait une attaque par drone et que le stade ne soit pas suffisamment sécurisé. Ou de toute façon, il peut y avoir un attentat sur les fils, il peut y avoir un attentat dans le métro. De toute façon, nous ne serons jamais à la sécurité parfaite. Donc après, effectivement, c'est un défi sécuritaire majeur, mais c'était avant de prendre la décision qu'il fallait se poser la question
maintenant,
finalement.
Maintenant, on y est.
Maintenant, on y est.
Arrêtez de tergiverser. Geoffroy, je sens que vous avez quelque chose à me dire.
Mais oui, j'ai quelque chose à vous dire, Laurent. Exactement. Non, mais je sais ce que vous pensez du fait que ce serait céder au terrorisme que de ne pas faire la cérémonie d'ouverture.
C'est s'aplatir devant les terroristes, avant même qu'il y ait la menace.
Mais malheureusement, ça a des conséquences, en fait, de ne pas s'aplatir. C'est-à-dire que, en gros, imaginez que la cérémonie ait lieu, qu'elle soit très belle, une très grande réussite, une très grande fierté, etc. Ce que tout le monde souhaite ici, et on n'y est pas. Mais imaginons que ce soit le cas. Quel est le prix à payer pour ça? Moi, je pense, en fait, à l'État, déjà au désarmement du pays, parce que toutes les forces de l'ordre vont être concentrées sur Paris. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, l'état même de nerfs et psychologique et physique de nos forces de l'ordre. C'est-à-dire qu'en fait, on parle de gens qui ont un métier difficile, compliqué, qui ont enchaîné les manifestations contre les retraites, les émeutes l'été dernier, qui ne prennent pas beaucoup de vacances, qui n'en prendront pas cet été, comme le disait Jean-Christophe à l'instant, dont les heures sup sont difficilement payées ou pas payées, qui se font insulter du matin au soir par la France insoumise. Okay. Enfin, c'est ça l'état. En fait, dans quel état ils vont se retrouver après les Jeux Olympiques, une fois que tout
parce
ça sera...
Parce qu'il y a les Jeux Paralympiques après. Hein.
Oui,
il y a d'autres, mais une fois d'autres événements. Hein.
Passée,
ça va durer longtemps, la séquence.
On voit bien qu'on a tous les jours des sujets sécuritaires dans ce pays. Si on a une police qui facultés sont diminuées parce qu'elle est éprouvée, en fait, c'est pas une bonne idée. Bon,
non, mais pour moi, la question ne se pose pas en indiquant que l'on fait confiance ou pas aux fonctionnaires de police. Évidemment qu'on leur fait confiance. Ils déjouent
des attentats.
Sans arrêt, des attentats. On n'en parle pas parce qu'on ne veut pas apeurer la population, mais ils déjouent des attentats. Ils s'infiltrent dans les réseaux pour les mettre à mal et mettre sous verrou les voyous. Ce n'est pas un sujet, ça. La question, c'est quand on est un responsable politique, est-ce qu'on crée les conditions d'un risque d'insécurité minimum ou est-ce qu'on met les fonctionnaires de police dans une situation qui est presque intenable? Moi, je considère aujourd'hui que les choix qui sont faits relèvent de la deuxième option. Relèvent de la deuxième option parce que quand tous les experts vous expliquent que c'est une folie de faire l'inauguration officielle sur les bords de Seine et qu'on avait d'autres options, quand on voit qu'on déshabille toutes les métropoles des forces de sécurité pour mettre le paquet à Paris, Et ça veut dire quoi? Que quelque part, on laisse un terrain libre pour ceux qui voudraient commettre des exactions sur ces métropoles-là. Et de surcroît, quand on ajoute à ça que la sécurité privée n'a pas pu recruter le nombre d'agents suffisant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se met dans des situations où le principe de précaution, le principe de protection de la nation, il n'est même pas pris en considération par nos responsables politiques. Il y a une forme d'irresponsabilité de mon point de vue. Je souhaite, comme vous tous, comme nous tous, que ça se passe bien, à l'évidence, mais force est de constater qu'on ne peut être qu'inquiet de la manière dont les choses se préparent.
Alors vous avez plusieurs à avoir noté le fait qu'on va un peu déshabiller Pierre pour habiller Paul, que les policiers, on va les masser dans la région parisienne au moment de la cérémonie d'ouverture, et que sur le reste des territoires,
exactement,
il va falloir faire avec ce qu'il y a. Regardez ce reportage à Menton, notamment, à la frontière franco-italienne, parce que les syndicats de police, comme la droite des Alpes-Maritimes, dénoncent le fait que tous les policiers seront envoyés en renfort à Paris. Reportage Franck Trivio.
En pleine campagne européenne, Éric Ciotti s'est emparé de la question migratoire à la frontière franco-italienne. Dans un communiqué, le président des Républicains a demandé des explications au ministre de l'Intérieur concernant le retrait de forces mobiles destinées à lutter contre l'immigration clandestine. Un allègement des effectifs qui inquiète les riverains.
Je ne trouve pas ça normal, puisqu'il faut quand même surveiller les frontières.
Si on enlève cette sécurité qu'on a aujourd'hui, ça va poser un problème pour les prochains mois.
La raison de ce retrait, les Jeux Olympiques qui vont mobiliser les forces de l'ordre à partir du 1er mai. La pire période, selon Laurent Alcaraz, représentant départemental du syndicat Alliance.
Les beaux jours permettent une mer plus calme pour venir en bateau ou pour franchir les montagnes également, il y a moins de neige. Malheureusement, on a un afflux de migrants un peu plus important dans ces périodes-là.
Pourtant, Gérald Darmanin l'assure, le patron des Républicains Éric Ciotti fait fausse route. Selon le ministre de l'Intérieur, le nombre de policiers restera inchangé.
Je ne confirme pas du tout ces informations. Qu'il y ait des changements des CRS ou des escadrons de gendarmerie qui quittent une mission pour aller vers une autre, bah oui, c'est le quotidien, ils ne restent pas des mois et des années au même endroit. En revanche, qu'ils soient remplacés soit par d'autres escadrons ou unités de CRS, ou par des policiers ou des gendarmes qu'on a mobilisés différemment, ce sera le même effectif aux frontières, non seulement des Alpes-Maritimes, des Pyrénées et du nord de la France.
Pour rappel, à Menton, plus de 700 policiers et gendarmes sont présents sur place afin de renforcer les contrôles à la frontière franco-italienne.
Ce que nous dit le ministre de l'Intérieur, c'est qu'ils seront remplacés poste par poste. Vous dites que ce n'est pas possible.
Non, ce n'est pas vrai.
Et après, je me tournerai vers Jean-Christophe.
Je veux dire, on a Jean-Christophe, oui, qui en parlera mieux que moi, mais on ne peut pas dédoubler les effectifs. Il faut être sérieux.
On peut pas les inventer.
Quand ils sont à Paris, ils ne sont pas en province à lutter contre la drogue, à nos frontières, à lutter contre les méfaits sur la voie publique. Donc, non, force est de constater qu'on va pomper des effectifs, même sur les plages. Aujourd'hui, il y a des villes qui s'organisent pour prendre des agents du privé pour protéger les plages qui étaient protégés par les CRS. Mmh. Je veux dire, parce que là aussi, sur les pages, il peut se passer des choses. Donc, si vous êtes un fou furieux, un terroriste, vous vous dites quoi? Ils mettent tous les moyens à Paris. Eh ben, on va attaquer en province.
C'est pour ça.
C'est ce que je dis. C'est pour ça que je parle d'irresponsabilité.
En fait,
les collègues, ils seront où?
Oui, c'est un jeu de bonneteau, quoi. En fait, je reprends les CRS, mais c'est vrai. Les maîtres nageurs sauveteurs, on l'a déjà dit. Nous, on a demandé aux maires justement de se bouger aussi parce que c'est les premiers impactés. Un CRS, par exemple, il y a 280 CRS sur les plages. Cette année, ils n'y seront pas. Donc, ça fait des noyés. Parce qu'on n'a pas les capacités de mettre des gens du privé. Ça fait effectivement, s'il y a des attaques, comme il y a eu en Tunisie il y a quelques années, les CRS sont armés sur les plages, ils ne pourront pas intervenir. Enfin, je veux dire, tout ça,
c'est
un choix politique.
Mais c'est un choix politique. Vous nous dites qu'il ne fallait surtout pas faire les JO en réalité.
Non mais les autres pays sont confrontés. Les autres pays, Londres a été confrontée à ça quand elle organisait les JO.
Oui.
Tous les grands pays sont confrontés. Sauf qu'à un moment donné, effectivement, il faut accepter aussi qu'il y a des missions qui ne pourront pas être remplies. Oui, la PAF, la police aux frontières, on ne pourra pas mettre autant de personnel qu'on met aujourd'hui. Sur les plages, on ne pourra pas non plus. Enfin, les rodéos, je suis désolé, mais les rodéos dans les quartiers...
Ça va être la fête ou voyou, en fait.
En fait, on va acheter un peu la paix sociale.
C'est complètement angoissant,
on va intervenir. Mais s'il y a des émeutes, les CRS seront à Paris. Donc il va falloir les ramener.
Il y aura en off,
à mon avis, il y aura aussi des instructions qui vont dire on calme le jeu pendant les 3 semaines, voilà, fermez un peu les yeux, puis on se concentre sur les activités du quotidien, et puis à fond sur Paris. Quoi, voilà.
Alors Jean-Sébastien, et après on parle du squat.
Il y a peut-être une autre solution, parce que bien sûr que la police fait son travail, mais il y a des limites à ce qu'elle est capable de faire. On voit bien que la peur du gendarme pour... Le dire en langage courant n'existe plus beaucoup dans le pays, il y a aussi un autre moyen, c'est la certitude de la sanction. sont. Enfin, c'est simplement que des gens qui seraient tentés, pas les terroristes, parce que eux, les terroristes, ceux qui sont dans un véritable projet, de toute façon, aucune sanction ni certitude de la sanction ne les arrêtera. Mais sur la délinquance commune, la certitude de la sanction, de la sévérité de la justice pourrait quand même, me semble-t-il, produire quelques effets.
Alors, autre point relatif à ces Jeux Olympiques, il y a une évacuation des migrants et des SDF de toute la capitale en direction des régions. Ça a été dénoncé par un certain nombre de maires de communes comme celle d'Orléans, si je me rappelle bien. Et là, ça a été le cas à Vitry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne, où le plus grand squat de France a été évacué ce matin à l'aube. Explication de Mathieu Devez, Sacha Robin.
Il est aux alentours de 7h du matin ce mercredi, quand plus de 200 agents des forces de l'ordre évacuent le plus grand squat de France. Une opération attendue depuis plusieurs jours dans cette entreprise désaffectée de Vitry-sur-Seine. Une centaine de migrants avaient donc quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre. Ils étaient encore 300, valises à la main ce mercredi matin.
Depuis 5h, on est réveillé, il vient, il tape la porte, allez, dégagez.
Vraiment, on est en clair, on n'a pas de logement, on habite comment. Là, on est très, très en clair.
C'est très compliqué, ça fait deux ans de travail. 5h du matin, on réveille, tous les temps, même pas un jour d'arrêter.
Comme lui, ils sont nombreux à affirmer travailler en Île-de-France et à attendre depuis des années un logement social. Mais selon certaines associations, l'hébergement d'urgence est saturé dans la région. Elle dénonce également un nettoyage social en vue des Jeux Olympiques.
Il y a un bus qui va vers le sas de Bordeaux et un qui va vers le sas du centre de la Loire. Voilà, et donc dans ces sas, ils vont être pris en charge pendant 3 semaines. Et après 3 semaines, certains auront des solutions et d'autres seront envoyés vers le 115 et donc se retrouveront inévitablement à la rue, mais dans des régions loin de Paris et loin des Jeux.
Présente lors de l'évacuation, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée, Mathilde Panot, cible le chef de l'État.
Quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir en 2017, il y avait 143 000 personnes à la rue. Aujourd'hui, il y a 330 000 personnes à la rue, c'est-à-dire une augmentation de 130%.
Selon les associations d'aide aux migrants, 80% des personnes évacuées à Vitry-sur-Seine sont en situation régulière dans le pays.
80% des gens en situation régulière dans le pays, André Vallini. C'est insoluble, en fait, là. On les évacue de Paris pour faire place nette pour les Jeux Olympiques, mais on déplace le problème, en réalité.
Oui, on déplace le problème, et je pense que c'est peut-être l'occasion de voir personne par personne, individu par individu, famille par famille, quelle est leur situation, et de les régulariser quand c'est possible, parce que certains travaillent sans papier, et ils font souvent des travaux et des métiers que les personnes...
Les Français ne veulent pas, oui. Dont les Français ne veulent pas.
Dont les Français ne veulent pas. Donc c'est peut-être l'occasion de les régulariser. C'est un débat qui enflamme la classe politique régulièrement. Mais moi, je pense que quand on travaille, qu'on cotise à la sécurité sociale, que le patron vous exploite et vous paye moins cher que si vous aviez des papiers, il faut en finir avec ça, il faut les régulariser. Quant à ceux qui ne sont pas régularisables, qui sont en situation irrégulière, qui sont... clandestins, si on peut les renvoyer chez eux, il faut les renvoyer chez eux.
Oui, mais ça ne marche pas, vous le savez.
Ah si, ça peut marcher, il y a des pays avec lesquels ça marche.
Dans notre pays, donc ça ne marche pas. Ce sont des vœux pieux. Karim ?
Non, mais dans une situation, mais alors de la plus pure et de la plus grande hypocrisie. Si nous n'avions pas eu les JO, ce centre de migrants perdurerait. Donc, et certainement, ses rangs grossiraient. Premièrement, donc, et comme on a les JO, événement planétaire, le premier par excellence sur le plan sportif, déplacer donc de ma vue ce qui n'est pas acceptable, et puis on va le mettre en province. Donc on ne règle pas le sujet, on le déplace. Mais pendant ce temps-là, ce qu'on ne dit pas, parce que c'est le politiquement correct, mais il y a des gens aujourd'hui qui le révèlent, toutes les entreprises de BTP qu'on construit les infrastructures des JO, vous pensez qu'elles ne s'est pas servies de cette main-d'œuvre ?
Mais bien sûr.
Il faut qu'on arrête d'être hypocrite. Maintenant qu'on a construit les infrastructures, qu'on est à 3 mois du JO, donc on va les déplacer et on va faire quoi ? On traite le problème ou on ne le traite pas ? Comme disait André Vallini, est-ce qu'on va faire à un moment donné un traitement ?
Faut pas vous êtes régularisable. Des migrants arrivés récemment avec des gens en situation irrigulière depuis plusieurs années. Ce ne sont pas des migrants arrivés récemment qui sont employés par des
entreprises. Je ne dis pas que c'est arrivé récemment. Je dis que parmi ceux-là, moi je veux bien croire que, et certains disent qu'ils se lèvent à 5h du matin, parce que quand vous allez devant les plateformes de BTP à Marseille, et je pense dans toutes les grandes métropoles c'est pareil, ils montent, ils sautent dans les camions à 5h30, 6h du matin. Donc de ceux qui ne les déclarent pas, mais qui l'utilisent comme une main-d'œuvre. Donc à coût de 30 euros par jour.
C'est
une réalité.
Je suis bien d'accord, c'est une réalité, c'est une forme d'esclavagisme, largement entretenue par une forme de
d'hypocrisie.
Pensée. Oui, d'hypocrisie, mais aussi de pensée de la gauche. Le sujet, c'est comment faire en sorte que ces emplois-là soient possibles en France, parce que c'est aussi la complexité réglementaire financière qui fait que... Parce qu'on peut régulariser les gens, mais la réalité, c'est que dès qu'ils sont régularisés ou qu'ils sont français, et c'est parfaitement respectable et compréhensible de leur point de vue à eux, eh ben ils ne veulent plus travailler exactement comme les autres Français. Mais c'est logique. Donc en fait, on voit bien qu'on ne fait qu'alimenter, la pompe. Non, mais le sujet, ça n'est pas de régulariser les travailleurs, parce que vous n'allez faire qu'alimenter la pompe. Le sujet, c'est de faire en sorte que les emplois dans le BTP ou les emplois, parce que d'ailleurs, ça pose aussi un certain nombre d'autres problèmes. Allez poser la question à des femmes qui essayent d'être chefs de chantier. Vous verrez s'il est encore possible d'être une femme dans un groupe de BTP aujourd'hui face à la sociologie des gens qui y travaillent. Donc ça aussi, c'est une réalité. Donc oui, regardons les choses en face, ne soyons pas hypocrites, prenons les choses à bras le corps, mais en premier lieu, si on veut régler ce problème-là des emplois irréguliers, bah faisons en sorte qu'il y ait des emplois qui permettent de vivre dignement en France.
Grand squat qu'on a évacué.
Il y a plusieurs choses qui m'ont choqué dans le sujet qu'on a vu. La première, c'est le comportement des gens qui sont interrogés face caméra et qui disent « c'est un scandale, on n'a pas de logement social, vous rendez compte ?» Et en fait, je suis désolé de le dire, mais personne n'a de logement social dans ce pays. En tout cas, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien en avoir un qu'on n'en a pas. Mm-hmm. Et donc, la manière, l'espèce d'agressivité, la revendication, etc., calmez-vous en fait. Vous êtes des nouveaux arrivés. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui souffrent dans ce pays, y compris des gens qui étaient là avant vous. Et ça, c'est une première chose. Moi, je suis désolé, ce ton-là, je le supporte pas. Ensuite, l'esclavagisme que vous avez dénoncé à juste titre, qui est le fait d'une certaine logique venue de la gauche, mais dont la droite s'est bien accommodée, notamment le patronat, parce que moins on paye cher ses employés, plus on fait de marge. Et donc ça fait 50 ans que ça dure, mais ça a toujours été, enfin ça a longtemps été le cas. Et la troisième chose, c'est que je suis désolé, mais en fait tout ce que vous avez dit sur le fait de déplacer la misère, de cacher ce qu'on veut pas montrer, etc. Moi, je suis désolé, je trouve que c'est un formidable plaidoyer contre l'immigration, en tout cas contre l'immigration telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est-à-dire que ce sont des gens qu'on laisse venir, on prend en effet la partie exploitable d'eux de manière ultra cynique et glauque, et ensuite on n'a strictement aucune solution.
C'est pas un plaidoyer contre l'immigration, c'est un plaidoyer pour le règlement de la question migratoire, oui, mais qui n'est pas réglée aujourd'hui.
En fait, je suis désolé. Ce que je veux dire, c'est qu'à 300 000 personnes par an, ça finit forcément comme ça. Non, mais 300 000 personnes par an qui arrivent, plus les clandestins, ça finit forcément comme ça. C'est obligatoire par des squats, par des gens qui dorment sous le périphérique. Et la réalité de l'immigration en France aujourd'hui, c'est ça. Et pour terminer, d'une image sur que m'inspire,
rapidement,
ça fait partie. Obligatoire. C'est que j'ai l'impression qu'on avait vous savez, quand on déplaçait la colline du crack, on évacuait la colline du crack, puis on la réévacue deux mois plus tard.
Ça recommence. Là, on refile le bébé aux régions.
Mais parce que le problème, c'est l'immigration, c'est pas tellement ces pauvres gens qui ont demandé à personne.
Ça rappelle le précepte dans Ricoeur, il n'y a pas de problème que l'absence de solution ne finisse par résoudre. C'est exactement, c'est une politique de funambule.
Allez-y, posez votre autorité.
Non, mais en fait, nous aussi, ça nous pose un problème parce qu'effectivement, on prend des personnes, on va les distribuer sur le territoire français. Donc ils vont débarquer dans des villes qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont pas non plus de d'attache. Et en fait, les habitants de ces villes vont devoir eux aussi faire avec. Donc c'est le vivre ensemble forcé, quoi. C'est-à-dire que moi je viens d'une petite
ville. Et on ne prévient pas les communes.
Comme Périgueux, par exemple. Et ça ramène aussi des gens en plus, ça ramène aussi des problèmes, ça ramène plein de choses. Et moi, les collègues me disent, mais alors nous, on nous met des habitants en plus, mais pas de moyens, pas d'effectifs. Comment on fait? Et puis il y a des tensions dans les communautés. Enfin, je veux dire, c'est insoluble. Alors. Et le problème, c'est qu'encore une fois, tout vient de Paris. Et hop, on nous balance tout ça. Et après,
c'est
débrouillez-vous, encore une fois. Et si on veut retrouver de l'argent, c'est aussi lutter contre la fraude sociale.
En un mot, André Valigny.
Oui, en un mot, j'ai pas compris pourquoi Jean-Sébastien Ferjou et Geoffroy Lejeune mettaient en cause la gauche dans cette histoire. Depuis 40 ans...
J'ai dit la gauche, la droite... non coupable.
Moi, j'ai dit la droite.
Non,
je veux simplement rappeler que trois fois, la gauche a eu le courage... La gauche a eu le courage de régulariser les sans-papiers qui travaillaient. C'était sous Mitterrand quand il est arrivé. Jospin quand il est arrivé et Manuel Valls quand il était ministre de l'Intérieur.
C'est pas une solution.
Trois fois, la gauche a eu le courage de régulariser les gens qui travaillent, dans notre pays.
Et moi, je vous disais juste un exemple qui n'est pas de gauche.
C'est la fin de la première partie. Merci à tous. On fait une petite pause. On se retrouve dans un instant sur CNews et sur.
C'est courageux, oui, par rapport à l'opinion publique, c'est courageux.
Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews et sur Europe 1. Peut-on être pour la liberté d'expression et se réjouir que la conférence de la France insoumise ait été annulée demain à l'Université de Lille? Difficile équation, surtout après l'annulation hier d'un rassemblement réunissant Éric Zemmour, Victor Orban ou encore Nigel Farage à Bruxelles, avec le même motif invoqué par le bourgmestre de la ville: garantir la sécurité publique ou encore garantir la sérénité des débats. Le président de Reconquête a logiquement dénoncé une dictature qui l'empêcherait de parler, lui et ses collègues de la droite nationaliste européenne. Jean-Luc Mélenchon dénonce lui automatiquement une censure insupportable et demande que les voix pour la paix puissent s'exprimer. Or, c'est là que le bât blesse. On ne peut pas s'autoproclamer militant de la paix lorsque l'on s'exprime avec une association pro-palestinienne dont le logo nie l'existence même d'Israël et que l'on tient des discours électoraux au relent antisémite dans les universités. Mais dans un cas comme dans l'autre, l'interdiction n'est pas la solution. La liberté d'expression est une valeur cardinale de notre société, avec des limites clairement définies par la loi. Non à l'incitation à la discrimination, à la haine, à la violence ou à la ségrégation. On va en débattre ce soir avec mes invités dans Punchline. Il est 18h. D'abord, le rappel des titres de l'actualité, l'incompréhension et la douleur pour la famille du jeune homme de 22 ans mort après une agression sauvage à Grande-Synthe, dans le Nord, vers 2h du matin, dans la nuit de lundi à mardi. Les policiers ont retrouvé la victime gisant sur un parking derrière un supermarché. Selon un témoin, il a été agressé par 3 individus qui lui ont dérobé son téléphone portable avant de prendre la fuite. Un mineur a été placé en garde à vue. L'opération antidrogue Placenet XXL a permis l'interpellation de 3814 personnes. Une annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, après le Conseil des ministres. 600 individus ont été présentés à un juge d'instruction. Près de 200 ont été incarcérés. Éric Dupond-Moretti, présent à ses côtés, a salué la coordination des différents services de l'État qui a, selon lui, porté ses fruits. On écoutera les ministres dans un instant. Le plus grand squat de France a été évacué aujourd'hui, situé à Vitry-sur-Seine dans le Val-de-Marne. Il a abrité jusqu'à 450 migrants. 250 policiers ont été mobilisés pour cette opération. À 100 jours des Jeux Olympiques, les opérations d'évacuation de ce type se multiplient en Île-de-France. Enfin, 195e jour de détention pour les otages retenus par l'organisation terroriste du Hamas dans la bande de Gaza. 3 de ces otages sont français. Ils se nomment Ofer, Orion, Orad. Nous pensons à tous ces otages ce soir et à leurs familles. Nous demandons une fois de plus leur libération immédiate et sans condition. Il est 18h02, nous sommes en direct sur CNews et sur Europe 1. André Vallini est avec nous, merci à vous, ancien ministre. Vincent Herbouët, spécialiste de politique étrangère, bonsoir à vous. Nous sommes avec Jean-Sébastien Ferjou, Geoffroy Lejeune et Jean-Christophe Pouilly, qui est policier secrétaire national Unité. On va commencer, si vous le voulez bien, par ce dilemme, cette question que je posais en début d'émission. Est-ce qu'il faut se réjouir que la conférence de la France insoumise ait été annulée à l'université de Lille, où elle devait se tenir? Est-ce qu'il faut dans le même temps se réjouir que Éric Zemmour, M. Farage et M. Orban aient été interdits de s'exprimer hier lors d'une réunion à Bruxelles? C'est compliqué, la liberté d'expression. On va voir ce que vous en pensez. D'abord, les explications de Thomas Bonnet et je vous passe la parole.
Après des jours de polémique, la conférence prévue ce jeudi 18 avril à Lille avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan a finalement été annulée. Elle ne se tiendra pas, cette conférence, dans l'université de Lille. C'est ce qu'annonce justement l'université dans un communiqué en mettant en avant l'évolution de la situation internationale au Proche-Orient, en particulier les attaques qui sont survenues les 13 et 14 avril dernier. Dès lors, dit le communiqué, les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sérénité des débats. L'escalade militaire a provoqué une montée préoccupante des tensions. Réaction rapide de la France insoumise, là encore par le biais d'un communiqué. La formation politique dénonce, je cite, « l'instrumentalisation de cette conférence par des partisans du soutien inconditionnel au gouvernement Netanyahou ». Sont notamment pointés du doigt les députés socialistes Jérôme Guedj et la députée Renaissance du Nord, Violette Spilbou. Dans le même communiqué, la France insoumise assure qu'une conférence aura bel et bien lieu à Lille, dans un autre lieu qui sera communiqué ultérieurement aux personnes qui se sont inscrites.
Vincent Herbouët, il faut interdire, il ne faut pas interdire. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde, sur tous les sujets, ou est-ce que c'est à géométrie variable?
La fac, ce n'est pas,
pas un lieu de meeting.
En France, quelles que soient les franchises et leurs traditions, ce n'est pas une salle de réunion à Bruxelles. Moi, j'ai été très frappé par ce qui s'est passé en Belgique.
On va y revenir dans un instant.
Je ne sais pas si l'islamo-gauchisme, ça existe vraiment, mais si ça existe, s'il y a une capitale,
ça y ressemble en Belgique.
Bien Bruxelles.
On est d'accord. Mais ce qui est frappant, c'est la similitude des arguments avancés et par Jean-Luc Mélenchon et par Éric Zemmour, pour les mêmes raisons. Censure, dictature, voilà.
Oui, non, mais sauf que vous aviez, à Bruxelles, vous avez un cas patent d'une réunion publique avec des hommes politiques élus, ce qui est le cas du Premier ministre Orban, ce qui est le cas de monsieur, des Britanniques qui étaient là. D'ailleurs, j'ai très frappé par la réaction du Premier ministre belge, la réaction du Premier ministre britannique, qui tous sont scandalisés, utilisent des mots très forts pour dénoncer ce qu'a fait l'élu du canton, parce que c'est pas le bourgmestre de Bruxelles,
c'est le bourgmestre
l'élu de l'arrondissement, pourrait-on dire, et qui interdit, avec le recours à la force publique, cette réunion qui était...
Donc c'est pas le même échelon pour vous.
Mais
on ne peut pas comparer les deux situations.
Mais en Belgique, c'est les mêmes qui, pardonnez-moi, mais c'est les mêmes qui l'année dernière accueillaient avec le tapis rouge le maire de Téhéran, monsieur Ali Reza Zamadi, si je me souviens bien, qui venait juste de lancer dans sa belle capitale, où il a été évidemment démocratiquement élu, un grand projet, un grand plan sur hijab et chasteté. C'est le même, c'est les mêmes qui, d'un côté, accueillent comme ça.
C'est la Belgique. La question, elle est sur la liberté d'expression.
Alors, André Valény. Moi, je suis voltairien, comme beaucoup d'entre vous, sans doute. Et souvenez-vous que Voltaire disait « Je déteste ce que vous dites, mais je me battrai pour que vous puissiez le dire. » Donc moi, je déteste à peu près tout ce que dit Mélenchon. Je déteste à peu près tout ce que dit Zemmour. Mais je pense qu'ils ont le droit de s'exprimer. Et je pense qu'il n'y a pas deux poids, deux mesures. Il faut que la France insoumise, malgré ce qu'elle dit sur... Israël, qui confine à l'antisionisme et donc à l'antisémitisme, malgré ce que dit Zemmour, parfois à l'extrême droite de l'échiquier politique, il faut qu'il puisse s'exprimer en Belgique comme en France. Ce sont deux démocraties. Il faut que tout le monde puisse s'exprimer, sauf bien sûr s'il y a menace à l'ordre public.
Et sauf si ça ne répond pas aux critères que j'ai énoncés sur la liberté d'expression, discrimination, incitation à la discrimination, à la haine, la violence ou la ségrégation. Geoffroy Lejeune, votre avis là-dessus?
Moi, je suis pour la liberté d'expression. Je ne suis pas voltairien, mais je suis quand même pour la liberté d'expression. Il m'est déjà arrivé d'être invité dans une université, notamment à, à Sciences Po Lille, et d'être annulé de conférences. Donc, je sais ce que ça fait. Et en fait, ça me choque, l'annulation. Je pense que le pire moyen de lutter contre les idées de quelqu'un, c'est de l'interdire de parler. C'est là que ça prolifère le plus facilement. Je vois Vincent être dubitatif sur ce que je dis, mais
c'est l'endroit où on parle. Une fac, c'est pas une salle de meeting, quand même.
Oui, non, mais alors après, on peut
rentrer dans syndicats, les syndicats bidons qui sont des émanations du parti en pleine campagne électorale. Moi, je suis désolé, ça me paraît étonnant.
En fait, je répondais sur la question du principe. Après, oui, on peut discuter, c'est une fac, on peut discuter sur Bruxelles, c'est évidemment pas la même chose, etc. Mais sur le principe, la volonté d'interdiction de celui avec lequel on n'est pas d'accord, je trouve qu'elle est contre-productive.
Dans les deux cas.
Après, les deux cas ne sont pas les mêmes.
Cas ne sont pas les mêmes. On a bien précisé que ce qui se passait du côté de la France insoumise.
Et dans le cas de Victor Orban, Zemmour et l'anglaise à Bruxelles, je pense que c'est un scandale démocratique. Ça interroge vraiment sur ce qui s'est passé là-bas.
On va regarder ce qui s'est passé à Bruxelles. Juste, Jean-Sébastien Ferjou, on laisse tout le monde s'exprimer ou personne?
Tout le monde. Pour moi, je ne sais pas si je suis voltairien, je ne suis pas communiste, mais Rosa Luxembourg, en tout cas, disait que la liberté, c'est toujours la liberté de celui qui pense autrement. Et je pense en plus que c'est totalement contre-productif, même s'il y a des questions qui se posent sur les universités spécifiquement, mais peut-être des questions d'ailleurs un peu plus subtiles, parce qu'on pourrait le questionner en termes de financement d'une campagne électorale, parce que de facto, c'est une tournée de campagne électorale de la France insoumise.
Le
pourquoi les universités françaises devraient-elles mettre à disposition des amphithéâtres dans le cadre de cette campagne électorale, ou alors il faudrait que ce soit inclus dans les dépenses de campagne de la France insoumise. Mais je crois que la liberté d'expression est absolument fondamentale, y compris dans les universités, que la question est d'ailleurs, parce qu'on voit aujourd'hui beaucoup de députés insoumis qui s'en offusquent, mais c'est quand même du foutage de gueule démocratique catégorie olympique à ce niveau-là, parce que ce sont les premiers à exercer une pression pour que la censure existe dans les universités. Après, peu importe, ça n'est pas parce qu'ils le font qu'il faut les suivre et leur emboîter le pas, défendant leur liberté d'expression
aussi.
Oui, l'université, moi aussi j'étais étudiant, l'université c'est aussi avec l'argent public. Donc on paye nos impôts. Donc est-ce que les impôts des Français doivent servir effectivement à faire de la propagande politique? Si c'est le cas, parce que je suis d'accord, moi aussi, voltairien, il n'y a pas de souci. Dans ces cas-là, on invite tout le monde. Et on ne fait pas qu'une force politique, on invite toutes les forces politiques. Et surtout, c'est quand il y a des conférences, il y a des contradicteurs.
Alors, on évoquait ce qui s'est passé à Bruxelles. J'aurais qu'on y revienne dans le détail avec Maxime Lavandier, parce que hier, c'est une réunion avec des leaders politiques de toute l'Europe qui a été interrompue au beau milieu par les autorités de la ville. Regardez le sujet, écoutez-le et on en débat ensuite.
Après 24 heures de polémique, la conférence très controversée de la droite nationaliste européenne a pu finalement reprendre. L'interdiction ordonnée en pleine réunion par le bourgmestre de la commune a été invalidée par le Conseil d'État belge. Les têtes d'affiche à l'image du Premier ministre hongrois Viktor Orban, présent ce mercredi, se félicitent de cette décision.
Cette tentative d'interdiction illustre le fait qu'en Europe, et en particulier à Bruxelles, la liberté est en danger.
Hier, La police de Saint-Josse est intervenue sur ordre de l'élu socialiste belge pour interdire la tenue de cette conférence qui avait déjà débuté le matin. Le bourgmestre, qui a fait valoir des mesures de sécurité pour justifier son arrêté, avait également déclaré que l'extrême droite n'était pas la bienvenue. Une décision dénoncée comme une atteinte à la liberté d'expression par plusieurs chefs de gouvernement européens, ainsi que l'eurosceptique britannique Nigel Farage.
Ce qui s'est passé ici, devant les médias du monde entier, montre que les opinions légitimes de personnes qui ont remporté des élections nationales ne sont plus acceptées ici à Bruxelles.
Même le Premier ministre belge avait jugé cette interdiction inacceptable. Le Conseil d'État belge estime que le bourgmestre a ignoré le droit constitutionnel de se réunir pacifiquement.
Voilà, et on va juste écouter la réaction d'Éric Zemmour, qui lui aussi s'est vu barrer l'accès à la salle par un cordon de police. Lui, il estime que la Belgique est entre la charia et la dictature. On l'écoute.
La Belgique était jadis un pays libre, où on accueillait Victor Hugo en exil. Je vois qu'aujourd'hui, c'est un pays qui est entre la charia et la dictature. C'est un triste destin pour ce beau pays. Voilà. En tout cas, je maintiens que moi, je suis là pour défendre l'Europe, la liberté de l'Europe et l'identité de l'Europe.
Voilà. Donc, à mi-chemin, Vincent Hérouet, entre la charia et la dictature. Pour la Belgique,
non, mais la Belgique est un pays, quand vous allez à Bruxelles, vous êtes frappé parce que vous avez l'impression que la ville a été bombardée. Ça, c'est déjà la première chose.
Pourquoi bombardée?
Mais parce que vous avez des espaces effondrés, vous savez, des grandes avenues, un chantier permanent. Oui, et puis vous avez le cœur de la ville, qui est la ville européenne, là, avec le quartier Robert Schuman, totalement glaçant, tellement c'est, ça ressemble vraiment à une sorte de convention collective ou à un règlement européen. C'est vraiment une ville bizarre. Et puis vous avez Molenbeek. Et vous avez Molenbeek, parce que faut pas oublier quand même que la Belgique a été le pays qui a amené à Daesh le plus de combattants. Mm-hmm. Il y en a près de 500.
Ils ont frappé sur le sol français.
Extravagant aussi par rapport à la moyenne européenne. Bon, donc vous avez cette réalité que souligne de manière dans un slogan Éric Zemmour, mais il y a une réalité qui est depuis 30 ans, un peu plus de 30 ans, depuis la victoire du Vlaamsblok en 91, qui avait surgi sur la scène en raflant 10% des voix, qui avait tétanisé quand même la société politique belge. Il y a une sorte de cordon sanitaire qui a été dressé autour de la droite nationaliste. Après, le Vlaamsblok a été interdit. Et depuis, en fait, un peu plus de 30 ans, vous avez vraiment, dans le parti médiatique et dans le
parti
centre...
Le parti médiatique.
Oui, mais oui, il y a un parti médiatique. En tout cas, dans le conformisme médiatique, si vous préférez.
Merci.
Et puis, dans les partis de centre et les partis de gauche, la volonté vraiment d'isoler la droite, les droites nationalistes.
Okay. Pigé pour la Belgique. André Valény, je vous vois beaucoup réagir à ce que
dit Vincent. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que dit Vincent Hérouet. L'islamisme est très implanté en Belgique, à Bruxelles en particulier. Mais en l'espèce, Éric Zemmour s'est trompé, puisque ce n'est ni la charia ni la dictature en Belgique, puisque le Conseil d'État belge a, au bout de quelques heures, annulé la décision du maire.
Cassé la décision.
Donc l'État de droit fonctionne et la démocratie a continué à fonctionner.
Et le premier ministre belge avait aussi condamné. Oui. Mais il faut rappeler, parce que c'est quand même ça l'ironie, c'est que le maire de la commune en question, de Saint-Josse, est lui-même un maire très proche de M. Erdogan, du président turc et de l'idéologie d'extrême droite, donc islamiste turc.
Oui. Islamiste,
oui, mais islamiste turc.
Okay.
Et aussi d'extrême droite. Donc quand il dit. Donc c'est totalement absurde. Il accueille lui-même des personnalités éminemment contestables. Donc, vous disiez, oui, c'est un slogan. Effectivement, Éric Zemmour se signale parfois par une capacité à énoncer les choses de manière très tranchée. La Belgique n'est pas une dictature, je crois pas. En revanche, il y a de vraies questions qui se posent et les Belges sont les premiers à le dire et à se battre. D'ailleurs, un certain nombre de Belges se battent contre l'islamisation croissante de certaines régions belges.
En tout cas, en France, cette annulation de la conférence, et là, je repasse à la France insoumise, fait voler encore un peu plus en éclat la NUPES, parce qu'il y a des échanges d'amabilité sur les réseaux sociaux entre Jérôme Guedj du Parti Socialiste et Mathilde Panot, qui sont absolument lunaires. À quand la clarification, à votre avis, monsieur?
La clarification, elle a commencé déjà, depuis quelques mois. L'Assemblée nationale, l'intergroupe ne fonctionne plus, d'après ce que je peux savoir. Et le PS fait une liste aux européennes, alors que les insoumis voulaient faire une liste de rassemblement de toute la gauche. Les socialistes font leur liste, et les communistes aussi, d'ailleurs. La NUPES, pour moi, elle est derrière moi. C'est terminé, la NUPES.
Oui,
c'est terminé.
Elle existe encore. Personne n'a dénoncé l'accord.
Même au niveau parlementaire, elle n'existe plus.
Ah oui. Et vous croyez que s'il y avait une dissolution demain, elle n'existerait pas encore ?
Ah bah les députés sortants, aiment bien retrouver leur siège, oui c'est sûr. Mais en tout cas, moi je suis plutôt heureux de l'évolution de la NUPES qui, à mon avis, n'existe plus aujourd'hui.
Petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On continue à débattre de l'actualité, on s'intéressera à ce qu'a dit Gérald Darmanin et aussi Éric Dupond-Moretti à propos de la lutte contre le narcotrafic. Je poserai aussi la question à Vincent Herouet parce qu'Emmanuel Macron annonce de nouvelles sanctions contre l'Iran après les frappes qui ont été lancées contre Israël. Quel type de sanctions pourraient être prises ? On débat de ça dans un instant.
Il faut faire preuve un peu d'originalité. Ça fait 45 ans qu'on sanctionne l'Iran.
Et ça ne fonctionne pas. Allez, on continue. A tout de suite dans Punchline. 18h19, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. J'aimerais qu'on évoque maintenant le meurtre d'un jeune homme de 22 ans à Grande-Synthe. Il a été frappé à mort sur un parking de la ville, tout près d'un supermarché lundi soir. Il est mort hier soir des suites de ses blessures. C'est un drame absolu. Les policiers l'ont retrouvé inconscient. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. On sait qu'un jeune mineur a été placé en garde à vue. Je me tournerai vers vous, Jean-Christophe Couvi, pour savoir s'il y a plus d'informations. Mais d'abord, on fait le point sur cette affaire terrible avec Célia Barotte. On entendra le frère de la victime. Célia.
Lorsqu'il a été découvert dans la nuit de lundi à mardi, le corps inconscient de Philippe présentait plusieurs coups, notamment au visage. D'après les premières remontées d'informations dont nous disposons, il a été agressé par plusieurs individus qui voulaient lui voler son téléphone portable. Les proches de Philippe expliquent qu'il était animateur dans un centre socio-éducatif, qu'il était honnête, généreux, plein de vie, toujours souriant et prêt à aider les autres. Une enquête a d'abord été ouverte pour le chef de tentative d'homicide volontaire en bande organisée. Une enquête qui a été requalifiée depuis hier soir en meurtre en bande organisée. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'agression pourrait avoir été commise par trois individus. Un des mis en cause, un mineur, a été interpellé et placé en garde à vue. Les investigations se poursuivent afin d'identifier l'ensemble des mis en cause et de pouvoir déterminer les circonstances exactes de ce drame. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, le maire de Grande-Synthe a fait part de son choc et demande à ses administrés de ne pas céder à la peur, de ne pas céder à l'esprit de vengeance. Une cagnotte en ligne a été organisée par les proches de Philippe. Près de 13 000 euros ont déjà été récoltés.
Merci pour ces précisions, Célia Barotte. On va écouter dans un instant le maire Martial Beyert. Mais d'abord, j'aimerais qu'on entende le témoignage bouleversant du frère de ce jeune homme, du frère de Philippe. Il a été recueilli il y a quelques instants par notre envoyé spécial, Fabrice Elsner. Écoutez son émotion.
Il a juste été chez un ami. Et c'est sur ce chemin du retour pour rentrer chez moi que ça s'est passé, quoi. Donc en gros, son ami, il habite à quoi, peut-être 150 mètres de chez moi, 200, 300, j'ai pas la marge exacte, mais c'est vraiment pas trop loin. Ils l'ont emmené carrément à l'opposé pour déposer le corps, mais je pense qu'ils l'ont attaqué avant, ils ont dû lui mettre un KO avant, et ils l'ont déplacé jusqu'à Carrefour Contact pour faire une mise en scène, pour abaisser le pantalon et voler les chaussures. Faut vraiment pas avoir de cerveau, quoi. Les gens, ils ont pas d'âme, c'est des gens enfermés à vie, ça. C'est... Il y a encore des traces de sang, comme vous pouvez voir, il y a encore des traces de sang ici. Et c'est là qu'on a retrouvé Philippe allongé. La tête a été redressée, les bras le long du corps, le pantalon abaissé, les chaussures enlevées. Quoi. Donc c'est ici qu'on l'a retrouvé. Pour un téléphone, pour une sacoche. Alors que mon frère, il met pas de vêtements de luxe, il met pas de marque, il met rien. C'est débile. Vraiment, c'est débile. Et moi, comme je dis, ce que je souhaite, c'est que justice soit faite et qu'il prenne perpète.
Jean-Christophe Couvi, l'émotion du frère de la victime. Est-ce qu'on en sait plus sur ce qui s'est passé ? Un jeune homme est en garde à vue ?
Alors pour l'instant, oui, on a une idée. Il y a trois personnes, effectivement, qui seraient recherchées. Au moins trois personnes, dont une personne déjà en garde à vue. Mais après, c'est le motif pour l'instant. Mm-hmm. On a besoin de savoir si effectivement c'était vraiment crapuleux avec un guet-apens et on l'a entraîné, je vous donne un rancard par le biais d'un réseau social. Et puis en fait, c'est un guet-apens. C'est arrivé il y a quelques jours à Grande-Synthe aussi. Un homme de 39 ans qui a été passé à tabac avec des battes de baseball. Il a réussi à se réfugier dans un restaurant. Mais voilà, le problème aujourd'hui, c'est que pour un téléphone portable, votre vie tient qu'à un fil. Vous pouvez vous faire agresser.
On peut tuer un homme aujourd'hui pour le
prendre. Oui, et surtout, c'est qu'à une époque, alors il y avait peut-être aussi des bagarres, des vols, ça a toujours existé. Enfin, aujourd'hui, on est une société qui est censée avoir évolué quand même un peu vers le bien. On se rend compte que malheureusement, on est quand même attiré beaucoup par le mal et la violence. Et surtout, c'est qu'on tue une personne. En fait, on ne veut pas qu'elle se relève. Et donc, dès qu'on l'agresse, il faut la finir, entre guillemets. Désolé pour la violence des mots. Mais c'est ça dans la tête de ces agresseurs. C'est que la personne ne doit plus se relever. Et moi, ce qui me choque aussi, c'est... Alors là, heureusement, enfin, c'est aussi les attaques au couteau en ce moment. Et donc, tout est lié. Cette histoire de bande, cette histoire de trafic. Aujourd'hui, la violence est complètement désinhibée.
Absolument. Et notamment chez les mineurs, parce que là, on a un mineur en garde à vue, Geoffroy Lejeune. Le spectre de ce meurtre est absolument terrifiant. Visiblement une mise en scène selon son frère, on l'aurait déplacé pour lui voler un téléphone
portable. Ça, c'est l'enquête qui va le dire.
L'enquête va le dire, mais vraiment, c'est abominable en réalité.
C'est abominable et ça s'ajoute à beaucoup d'affaires qui ont au moins un point commun avec celle-ci. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai le sentiment qu'on pourrait commenter ça tous les jours, quasiment tous les jours. On ressasse ce chiffre de 120 attaques au couteau par jour, même si on sait qu'il est contesté, etc. Mais en attendant, je pense qu'il est approchant de la réalité. Et en fait, ça veut dire que 120 fois par jour, il y a quelqu'un qui en fait trouve en lui la motivation pour sortir un couteau et agresser quelqu'un, c'est-à-dire potentiellement lui donner la mort. Je discutais récemment à ce sujet et je pense en fait que si on s'interroge, on est incapable de ce geste en réalité. Quand on est normalement constitué dans une société qui tient debout, c'est quelque chose qui est profondément antinaturel. Et pour donner la mort, pour faire ce genre de geste, et qui plus est avec un couteau, il faut avoir...
Là, il n'y avait pas de couteau à avoir.
Je sais, mais pardon, il y en a beaucoup et on en commande souvent.
Il y en a
souvent.
Énormément, mais là, ce n'est pas le cas.
Et en l'occurrence, donner la mort quand on n'est pas soldat, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas exister dans une société. Moi, je m'interroge sur toutes les raisons qui font qu'on en arrive là. Je veux bien croire qu'il y ait les réseaux sociaux, je veux bien croire qu'il y ait les vidéos sur Internet. Je pense qu'il y a aussi la drogue, mine de rien, parce que je pense que l'état dans lequel vous met l'abrutissement du cannabis ou d'autres drogues peut...
Ou la stimulation artificielle d'autres drogues de synthèse. André Valény, c'est vraiment votre thèse. Vous dites qu'il y a une violence latente, mais que les réseaux sociaux amplifient tout ça.
Oui, moi je pense qu'il y a une violence qui s'est développée chez les adolescents. Elle est immanente, enfin elle est à l'intérieur de chaque être humain, mais la civilisation fait justement qu'on arrive à surmonter ces pulsions, à les maîtriser, et les jeunes n'y arrivent plus parce qu'ils sont désinhibés, parce qu'ils sont toute la journée devant des écrans où ils voient défiler des images d'une violence inouïe. Et le fait de voir toutes ces images arrive à banaliser cette violence. Parce que les jeunes, les adolescents, se disent finalement, puisqu'on ne voit que ça, c'est que tout ça fait partie de la vie. Et donc la mort est au bout du chemin. Mais je pense quand même que ce qui est structurant dans tout ça, c'est la drogue. Alors on ne sait pas exactement ce qui s'est passé, ce qu'a fait le présumé coupable. Il n'y a pas de présumé coupable, je sais ça, je devrais réviser mes classiques. Enfin, celui qui est en garde à vue. On ne sait pas ce qu'il a fait, si c'est lui qui a commis ce crime. Mais je pense quand même que la délinquance et la violence aujourd'hui dans nos villes, dans nos pays, en Europe occidentale et aux États-Unis, tout ça vient beaucoup du trafic de drogue. Beaucoup.
Vincent Herouet.
Moi, je suis complètement d'accord. Effectivement, le passage à l'acte, c'est la vraie curiosité qu'on ait envie de larder, de frapper avec une batte de baseball. Quand même, la diffusion des haches et des couteaux dans le pays pose quand même un petit problème. Ce sont des armes auxquelles on n'avait pas véritablement recours il y a 30 ou 40 ans. On va me raconter qu'il y avait des chaînes de vélos pour les blousons noirs, mais ce n'est pas la même chose quand même. Il y a une banalisation, c'est vrai. Il y a un passage à l'acte, c'est vrai. Il y a l'influence de la drogue, c'est vrai. Mais il y a surtout l'impression quand même générale que ce pays ressemble de plus en plus à un coupe-gorge. Et qu'il y a une telle violence latente que la résistance, c'est pas dans le Vercors qu'il faut aller la célébrer, c'est vraiment au pied des immeubles dans la cité. Il y a tous ces discours lénifiants, tout ce blabla officiel, toutes ces petites bougies, mais ralas, hein, vraiment c'est insupportable.
Jean-Sébastien Ferjou.
André Valigny le disait, la violence est immanente au sens où elle fait partie de la nature humaine, elle est présente en chacun d'entre nous, et le propre de la civilisation
et de l'éducation, d'amener c'est de l'empêcher, de la canaliser.
À le réguler et le canaliser. Avons-nous déconstruit tout simplement notre civilisation? Oui, parce que c'était un projet, certains l'ont suffisamment assumé, enfin, que ce soit la trilogie infernale, Jacques Derrida, Gilles Deleuze, Michel Foucault, ça fait 30 ans les philosophes français hein, d'ailleurs, et c'est ça qui est parti aux États-Unis qui nous revient. Déconstruire la civilisation occidentale qui est soupçonné d'être à l'origine de tous les maux, alors que nous n'avons jamais connu dans toute l'histoire de l'humanité une ère dans laquelle il y aurait eu autant de liberté, autant de prospérité. C'est ça qui est en plus complètement dingue. Mais je crois que nous sommes une société qui n'a tellement plus d'avenir
le côté no future, terrible. Parce que vous le preniez par l'angle grand remplacement, on est fini, on va tous être remplacés, vous le preniez par l'angle, la planète va cramer, de toute façon, on fait grandir les enfants dans un environnement qui est profondément anxiogène. Le ministère de la Santé britannique, d'ailleurs, l'avait constaté sur le côté environnemental, en demandant aux écoles britanniques de cesser d'alarmer les enfants, tellement ils ont constaté l'impact sur la santé mentale des enfants. Oui. Et je pense que
la dépression, il suffit de
bien
dire,
sûr que le trafic de drogue fait partie, mais il y a autre chose qui se joue quand même, parce que cette violence-là, elle est présente partout dans la société, y compris à des endroits où il n'y a pas fondamentalement de trafic de drogue.
Il serait intéressant aussi, c'est de voir après le parcours de délinquance des trois personnes qui sont soupçonnés, de savoir s'ils étaient mineurs, s'ils étaient déjà connus des services de police et de justice. Par exemple, il y a une note de la police judiciaire en interne qui est tombée sur les attaques au couteau. Alors là, on va faire un parallèle parce qu'effectivement, il n'y a pas d'attaque au couteau, mais 63% des profils de mise en cause sont connus des services de police. Donc en fait, on a déjà des gens qui sont identifiés. Il y a 30% qui vivent dans des quartiers de reconquête républicaine, donc c'est un tiers quand même des assaillants. 10% étaient sous l'emprise des drogues, 32% sous l'emprise de l'alcool. Donc déjà, en fait, on a une identité d'un individu et 27% de nationalité étrangère. Donc ça aussi, c'est un fait nouveau pour nous. Donc on verra au fur et à mesure, on va égrener et donner un peu de granularité à cette affaire et on verra un peu plus avec un effet de loupe.
J'aimerais qu'on écoute maintenant le maire de Grande-Synthe, Martial Beillert, qui disait dès ce matin, ne cédons pas à la peur ni à l'esprit de vengeance. Écoutez-le.
Aujourd'hui, c'est un drame qui s'est passé avec une violence inouïe, apparemment sur un jeune qui était sur le chemin du retour pour rentrer chez lui après une soirée chez des amis. Il avait 200 mètres à parcourir sur une avenue très fréquentée, une avenue sur laquelle nous n'avons aucun problème. Et le destin, la vie et l'atrocité et la folie de certains a fait que ce jeune homme est décédé. Effectivement, il y a un sentiment d'insécurité qui augmente puisqu'il y a eu quelques faits ces derniers jours sur la ville de Grande-Synthe, avec ou sans relation avec cet acte ignoble et ce fait divers incroyable qu'on a vécu sur Grande-Synthe. Je ne ferai pas de conclusion hâtive, mais effectivement, mes concitoyens aujourd'hui me contactent parce que tout simplement, il y a un sentiment de peur, d'incompréhension.
De peur, d'incompréhension, c'est un maire socialiste. André Vallini qui disait aussi « Continuons à œuvrer pour l'éducation, la bienveillance et la fraternité ». On a passé le cap, là. On n'en est plus à la bienveillance et la fraternité. En fait, là, on est à la sauvagerie la plus totale et la barbarie.
Oui, mais il faut comprendre que le maire est dans une situation compliquée. Quand un tel drame arrive dans une commune, le rôle du maire, c'est d'apaiser, d'essayer de rasséréner les débats dans sa commune, de ne pas imaginer que le maire dise le contraire, c'est-à-dire oui à la vengeance et...
Non mais bien sûr que non. Donc, et entre ça et dire vive la bienveillance et la fraternité... La
bienveillance, le mot est peut-être un peu
mal choisi.
Oui, un peu mal choisi, un peu naïf, oui.
C'est son côté voltairien.
Oui. Non, je pourrais dire aussi que Marie-Hélène Toraval, elle a saisi l'occasion du drame qui impliquait des jeunes de sa commune pour dire la vérité, en fait, tout simplement. Et on l'a écouté d'ailleurs à ce moment-là. Je suis désolé, mais moi, c'est comme le maire de Viry-Châtillon. Je crois à leur émotion, mais par contre, je pense que leur bougie, comme disait Vincent tout à l'heure, c'est profondément néfaste. Ça participe du problème, en réalité, que personne ne veuille ouvrir les yeux sur ce qui se passe.
Très bien. Bah écoutez, on va faire le rappel des titres de l'actualité, 18h32, en direct sur CNews et sur Europe 1, avec Simon Guillain. Simon.
Notre devoir est d'élargir les sanctions contre l'Iran, déclaration du président de la République depuis Bruxelles, où un Conseil européen extraordinaire se tient aujourd'hui et demain au sujet des tensions au Moyen-Orient. Des sanctions qui viseront également ceux qui aident à faire des missiles et des drones, a ajouté le chef de l'État. En Israël, 14 personnes ont été blessées dans une frappe revendiquée par le Hezbollah. L'attaque a eu lieu dans le nord du pays, à la frontière avec le Liban. Et dans le même temps, la communauté internationale redouble d'efforts pour empêcher une riposte massive d'Israël contre l'Iran. Et puis le skipper Philippe Benoiton a été retrouvé mort aujourd'hui au large de l'Espagne. Il participait à une course de voile en solitaire entre le Morbihan et la Martinique. Philippe Benoiton est tombé de son bateau la nuit dernière. Son corps a donc été repêché par les services de secours espagnols, Laurence.
Si, Simon Guillain, Vincent Hervouet me tourne vers vous. Emmanuel Macron dit que l'Union européenne a le devoir d'élargir les sanctions contre l'Iran.
Alors, en fait, c'est une vieille histoire.
Ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que... la mécanique, c'est que la France avait proposé des sanctions, élargir les sanctions contre l'Iran, notamment
Après l'attaque contre Israël.
Dès la fin de l'automne, et puis ça avait été retoqué. Là, les Israéliens ont demandé à ce qu'on élargisse au maximum les sanctions. Ils l'ont demandé au Conseil de sécurité. Et donc tout le monde renchérit, et on va s'empresser de le faire. Le G7 doit se réunir, ils vont le décider. Mm-hmm. Les sanctions, en l'occurrence, et alors là, ça illustre quand même la limite de l'exercice, c'est pour élargir déjà les sanctions contre les drones.
Oui, là, ce sont entre des ceux qui fabriquent, qui aident à fabriquer les missiles, les drones.
Voilà, ça. Le programme de drones iraniens, il y a des matériaux qui peuvent être utilisés sur lesquels on pourrait faire porter de nouvelles sanctions. Mais la réalité, c'est que ça fait 45 ans que la République islamique est en place, qu'elle est soumise à des sanctions, et ça ne les a pas empêchés obstinément de construire une magnifique machine militaire avec laquelle ils viennent de défiler aujourd'hui même dans les rues de Téhéran, et samedi soir de montrer à quel point de technologies étaient arrivées. Parce qu'il ne faut pas... On a tous remarqué que 99% des engins avaient été neutralisés en traversant le désert d'Arabie ou la Jordanie. Mais il y a un certain nombre de missiles balistiques qui se sont écrasés sur Israël. Et ça, ces missiles balistiques, ceux que produisent les gardiens de la Révolution et ceux que produisent l'armée iranienne, eh bien, ils ont été assez efficaces quand même. Il faut prendre ça au sérieux. Donc les sanctions, c'est...
Donc c'est l'agitation, ça, de dire on va élargir les sanctions en sautant sur sa chaise.
C'est la petite bougie qu'on allume quand on ne peut rien faire contre la cité et qu'on a renoncé à imposer, à intimider le caïd local.
Bon, allez, une petite pause. On se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On parlera de la lutte contre le narcotrafic. Ce matin, Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti ont fait tous les deux un bilan de ces opérations Place Net XXL. On verra si ce bilan est intéressant ou pas. A tout de suite.
Toujours une question.
18h40 pratiquement, on se retrouve dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On va évoquer maintenant le bilan de la lutte contre le narcotrafic, mon cher Jean-Christophe Couvi, parce que ce matin, Gérald Darmanin, votre ministre de tutelle, et Éric Dupond-Moretti, qui est plutôt le ministre de tutelle des magistrats, ont fait un grand point sur les opérations XXL, dont on parle beaucoup, parce que c'est des opérations très médiatiques, et en même temps qui sont réalisées par les forces de l'ordre. Il y a un bilan avec des chiffres, 490 opérations en France, 1000 points de deal démantelés, 55 000 membres des forces de l'ordre mobilisés, pour 3800 interpellations. Est-ce que vraiment ça valait la peine? Ça a bousculé le trafic de drogue? On écoute d'abord Gérald Darmanin.
Alors est-ce que tout est réglé partout? Non, vous avez parfaitement raison. Mais vous savez, la question que vous évoquez des critiques sur est-ce que c'est assez efficace, j'ai été maire d'une commune. Si vous êtes maire et quelqu'un vient vous voir dans la rue et vous dit « Monsieur le maire, la rue est sale », et que vous répondez « Vous savez, elle sera sale la semaine prochaine, c'est peut-être pas la peine de la nettoyer ». Vous vous dites, c'est un drôle de mer quand même. Ben, c'est pareil pour les points de deal. Personne ne peut vous garantir que pendant 10 ans, à la paternelle, il n'y aura plus de points de deal. Mais notre travail des policiers, des gendarmes, des magistrats, c'est comme un maire qui nettoie sa rue. Ben, notre travail à nous, c'est de répéter, en effet, le travail des policiers, des gendarmes qui risquent leur vie pour le faire.
C'est assez intéressant la comparaison qu'il fait, je trouve, avec un maire de commune, André Valény, qui ne nettoierait pas les rues en disant, de toute façon, ça sera ressali la semaine prochaine. Oui, il a raison ou pas, Gérald?
Il a raison, j'ai été maire aussi, et c'est tout à fait vrai. Mais ce qui compte dans ce genre d'opération, et je crois qu'il le dit, et j'espère qu'il le fait, c'est de tenir dans la durée. C'est-à-dire que, tout à l'heure, Karim Zerebi, qui était là, nous expliquait qu'à la Castellane, ce fameux quartier de Marseille, les CRS, les policiers, je ne sais pas si ce sont des CRS, sont toujours là. Toujours là, 3 semaines après, ils sont toujours là. Il faut tenir dans la durée pour que le trafic finisse par peut-être par aller ailleurs, hélas. Mais la clé du succès de ces opérations, c'est de tenir dans la durée.
Bon, très bien. On va écouter juste Éric Ciotti, je vous passe la parole ensuite Jean-Christophe, qui lui estime que les quartiers ne sont pas nettoyés, que ça ne sert à rien ces opérations avec XXL. Écoutez.
Ce n'est pas des CRS qui vont régler les problèmes de trafic de drogue, c'est une action profonde, longue, de police judiciaire qui traque les réseaux au plan national comme au plan international, qui les défère devant la justice, justice qui doit y apporter une réponse pénale très ferme, très forte, systématique, sans impunité, sans naïveté.
Qui a raison, Christophe Couvi, vous qui êtes sur le terrain, enfin, vous représentez les policiers, les forces de l'ordre.
Tout le monde enfonce des portes ouvertes, en fait, c'est ça qui est formidable. Le travail de policier, il y a deux temps, le temps court, le temps long. Effectivement, le temps court, il faut quand même intervenir. Oui, il faut taper dans la fourmilière, il faut y rester. Donc ça demande des effectifs, des moyens humains, parce qu'encore une fois, mais ça a toujours existé. Moi, j'ai mes collègues CRS, quand ils faisaient des sécurisations dans les quartiers, les gars nous le disaient, bah, quand on y restait 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça ne mouffetait pas dans les quartiers. Ils avaient bien compris que quand il y avait des effectifs et qu'on était là pour bosser et que surtout on y restait, bah, voilà, on maintenait le territoire. Si maintenant on les enlève Ben en fait, la vie, j'allais dire, de la délinquance va reprendre ses droits. Le vide attire le vide, j'allais dire. Et donc, c'est normal. Sauf que il faut aussi le temps long de la police judiciaire, parce que des sujets, on ne peut pas prendre juste les gens et les mettre en prison sans qu'il y ait un jugement. Donc, il faut apporter des preuves, il faut remonter des filières, il faut faire de la surveillance, des écoutes, etc. Ça, ça prend du temps. Et d'ailleurs, en fait, quand on voit que les opérations XXL, elles ont été préparées en amont, on va pas comme ça, d'un seul coup, sensible, arriver en disant « Coucou, c'est nous, à la Belmondo, c'est pas possible ». Donc, en fait, ce qu'il faut faire, et c'est ce qu'on a fait là, c'est bien, on montre aussi les muscles.
Donc, ça sert à quelque chose.
Ça sert quand même à quelque chose. Maintenant, c'est comment on va transformer ça du point de vue de la justice. Alors, moi, je veux bien qu'on ait un monsieur Dupont-Moretti qui dise qu'il est sans pitié. Sauf que derrière, moi, j'attends qu'on nous montre les condamnations.
Alors, il dit qu'il veut être sans pitié aussi avec, contre ceux qui fument leurs petits pétards le week-end. Écoutez-le à nouveau, Éric Dupont-Moretti.
Et puis, allez voir les gens de la Castellane, rencontrez-les. Moi, je l'ai fait. Ils disent merci d'être venus parce que vous nous débarrassez de gens qui nous pourrissent la vie au quotidien. Et je voudrais, pardon de le dire, je sais que c'est pas très à la mode, mais que s'il n'y a pas de consommateurs, même dans le cadre, dit-on, festif, il n'y a pas de trafiquants. Et chaque fois qu'on se fume un petit pétard le week-end, on devrait penser aux gens de la Castellane qui n'en peuvent plus d'être pourris au quotidien par les trafiquants.
Mais on a avancé à quoi ? Qu'est-ce qu'on a, quand on a dit ça, qu'est-ce qui a changé, André Valigny ?
On a mis le doigt sur...
Il n'y a jamais autant de consommateurs dans notre pays.
Justement, c'est eux qu'il faut frapper au porte-monnaie. C'est eux qu'il faut sanctionner. Moi, ça fait des mois et des mois, des années même que je dis qu'on ne s'occupe pas assez des consommateurs.
Ça coûte combien d'être quand on est frappé?
En fait, c'est une amende forfaitaire délictuelle maintenant. C'est-à-dire qu'on a monétisé.
C'est combien?
150 euros?
Non, c'est 300 euros.
Il faut mettre ça à 3 000 euros.
André Valigny,
on passe de 300 euros à 3 000 euros. Et croyez-moi, même les gens qui ont beaucoup d'argent, s'ils se font prendre sans arrêt, qu'ils doivent sortir chaque fois 3 000 euros, ils vont peut-être arrêter
de fumer. Mais ils ne payent pas les amendes. Le policier nous dit qu'ils ne payent pas les amendes.
Les mineurs ne payent pas non plus.
Il faut recouvrer les amendes, payer. Je pense qu'il faut taxer, frapper les consommateurs. S'il y a autant de trafiquants, autant de dealers, c'est qu'il y a beaucoup de consommateurs. Pourquoi on ne parle jamais des consommateurs? De tous ces gens qui montent dans les quartiers nord de Marseille le week-end, le vendredi, le samedi, avec des grosses voitures, des BMW, des Porsche, j'allais dire des Ferrari.
Allez-y.
Ça, c'est les dealers qui ont des Ferrari.
Oui, c'est les dealers qui ont des Ferrari.
Oui, mais il y a des consommateurs aussi.
Mais tous ces gens-là ont de l'argent. Il faut les faire payer.
D'accord. Il faut engager la responsabilité morale. L'archevêque de Marseille l'avait dit. Morale. Je me souviens. Morale des consommateurs. Oui, leur faire, pour le coup, je conçois.
Vous croyez que ça va leur faire peur, une amende de 200 euros?
Non, mais je pense, pris dans l'autre sens, de toute façon, tout le monde est défoncé. Enfin, tout le monde. Beaucoup de gens sont défoncés en France, y compris avec des produits légaux.
Pas tout le monde, Jean-Sébastien, excusez-moi.
Non, mais bref, ce que je voulais vous dire par là, c'est que nous sommes le pays au monde, ou l'un des pays au monde, qui consomme le plus de drogue illégale, comme le plus de drogue légale, pour le coup.
C'est-à-dire anxiolytiques, antidépresseurs et compagnie.
Oui, donc s'il suffisait d'argent pour supprimer le besoin de drogue, ou de faire payer cher pour supprimer le besoin de drogue, ça serait, en revanche, oui, qu'il y ait une forme de réprobation sociale. C'est-à-dire que si vous êtes dans une soirée, il y a bien des comportements qui suscitent une réprobation sociale. Si vous êtes lourd avec une fille, par exemple, on va vous le faire remarquer. Et bien là, si vous êtes dans une soirée et qu'il y a quelqu'un qui sort un pétard, vous pouvez le faire remarquer aussi. C'est pour ça que je pense que ça ne relève pas que... Parce que le besoin...
Vous risquez de ne pas être réinvité, mais bon, c'est pas grave.
C'est ça,
la pression sociale. Mais je la dénonce.
C'est tout le problème.
C'est la pression sociale.
On est bien obligé de prendre les choses les unes après les autres. Après, ça n'empêchera pas si on culpabilise et qu'on pénalise les consommateurs, il faut bien gérer les trafics et les trafiquants. Ce sont aussi des marchés concrets. Les Sud-Américains ont constaté qu'ils étaient arrivés au bout du marché américain. Et bien, qu'est-ce qu'ont-ils décidé?
Se dirige vers l'Europe.
Voilà, donc ils ont aussi créé l'offre. Ça n'est pas que les consommateurs.
Monsieur Couvi,
il faut changer entre les deux. Il faut changer aussi le nom, parce que moi, récréatif, je suis désolé, c'est pas récréatif.
Alors qu'est-ce que vous voulez qu'est-ce qui était récréatif?
Mais une drogue, c'est pas récréatif. Non. Alors les drogues, c'est mortifère. Alors après, effectivement, il pourrait y avoir un but. Il faudrait voir. Effectivement, il y a les opiacés. On s'en sert aussi dans le domaine médical. Mais là, comme ça, vu comme c'est fait là, du cannabis, on le voit d'ailleurs dans les Pays-Bas où c'est pas encore légalisé.
Ils viennent pas de légaliser la cocaïne, les Pays-Bas, expérimental.
La maire d'Amsterdam qui part d'un constat. Elle explique que 80% des opérations policières sont utilisées pour la lutte contre la drogue.
D'accord.
Alors pour une capitale qui, je le rappelle, vous avez le droit de consommer dans les coffee shops. Mm-hmm. Alors c'est pas la légalisation dans tout le pays. C'est mis d'ailleurs. C'est mis en test depuis la mi-décembre. Sauf que quand vous allez à Amsterdam, vous arrivez dans la gare d'Amsterdam, ça sent le shit partout. Vous allez à côté des coffee shops, il y a des dealers à côté qui vous vendent autre chose que du cannabis. Et je peux vous dire que c'est la foire au cannabis, c'est la foire à la drogue.
J'entends.
Et donc du coup ils sont dépassés. C'est des États narcotrafiquants. Voilà.
Des
narco-États.
Voilà. Je prends le jeune.
Ouais, pour revenir sur PlaceNet, je suis très content quand je vois des policiers dans la rue et que j'entends des habitants dire que ça va mieux après coup. Mais j'ai quand même le sentiment qu'on épuise les forces de l'ordre. Encore une fois, on fait peser sur leurs épaules la responsabilité de rassurer les gens et que la réalité du trafic telle qu'elle a été décrite, notamment récemment au Sénat par Bruno Le Maire ou Gérald Darmanin. Bruno Le Maire a quand même parlé de sous-marins hein, qui franchissaient, qui étaient dans la mer pour venir apporter la drogue.
Il a parlé de la cartélisation de la France.
Et bien sûr, mais je prends l'exemple du sous-marin parce qu'il a frappé visuellement les esprits. On imagine tous des cargos, des containers qui arrivent au port du Havre. En fait, non, s'ils en sont au sous-marin, c'est que probablement PlaceNet, ils vont s'y adapter. En fait, c'est ça le problème.
Vincent Herbois.
Oui, il y a un marché. Le cours du gramme d'héroïne ou du gramme de cocaïne est constant, ce qui montre que toutes les opérations à grand spectacle ont quand même un effet mineur sur le trafic. S'il y avait réellement une efficacité de ce genre de rafle, le cours augmenterait, or il reste constant. Mais par ailleurs, moi je suis complètement d'accord avec ce que dit Jean-Sébastien Farjou, je suis effaré de voir avec quelle légèreté, je ne vais pas parler du parti médiatique, ça vous déplaît, mais...
Non, allez-y, je le dénonce aussi.
Dans l'arène médiatique, je ne supporte pas personnellement les gens qui parlent, qui ricanent quand on parle du chichon, qui trouvent très, très plaisant toutes ces allusions à la dope... oui, parce qu'en plus, il faut rentrer dans le langage, dans le vocabulaire du drogué. Et c'est absolument insupportable quand on connaît un peu de près ce que c'est que la réalité de la dépendance. Et la dépendance, c'est l'enfer sur Terre. Et donc, c'est vrai qu'il y a une forme de nihilisme contemporain qui est proprement français. Parce qu'on est champion du monde sur la consommation des anxiolytiques, on est champion du monde sur le suicide des gamins, on est champion du monde sur le nombre d'avortements, on est champion du monde sur un certain nombre de choses comme ça, qui donnent quand même du pays un reflet, un profil assez vraiment angoissant, vraiment inquiétant. Monsieur. Et donc, ça va, les gesticulations, les effets de manche et les discours trop simplets. C'est compliqué.
Monsieur Valigny, pourquoi on ne tape pas plus fort sur les consommateurs ? Parce que là, on parlait de l'amende, elle est à 300 euros. Et j'ai entendu dire qu'il allait coûter maintenant 750 euros à quelqu'un qui ne tiendrait pas son chien en laisse en forêt. Comment on explique ça, en fait, en réalité ? On n'augmente pas les amendes ?
Moi, je ne me l'explique pas. Je dis ça depuis longtemps. Je pense qu'on est trop gentil, trop indulgent avec les consommateurs de drogue. Il faut les sanctionner financièrement, les culpabiliser.
Mais pourquoi on ne le fait pas ? Pourquoi on ne le fait pas ?
Bah, peut-être parce que...
Les consommateurs sont partout,
c'est ça ? Il y a des consommateurs dans les élites aussi, sans doute.
D'accord. Bon. Les amendes de Jean-Christophe Coubi...
Je me suis planté, c'est 200 euros, c'est même pas 300.
C'est 200, 200.
Oui,
voilà.
Oui, voyez.
Et alors, vous venez de me dire qu'il y a une nouvelle amende maintenant pour le port de couteau,
alors,
c'est ça ?
Alors oui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une arme de catégorie D, donc notamment les couteaux, les armes blanches. Et pour lutter justement contre le port des armes blanches, là, ça sera 500 euros d'amende forfaitaire. Donc encore une fois, on va... Alors, c'est bien de lancer des... Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais il y a aussi, normalement, n'oublions pas que la procédure pénale, enfin le code pénal, punit d'un an d'emprisonnement 15 000 euros d'amende. Et donc, on veut simplifier et éviter de surcharger les services de police, mais derrière, est-ce que ça sera suffisant ? Je ne sais pas, c'est un nouveau... Ça vient de sortir, c'est un nouveau... Pas gadget, je ne vais pas dire gadget,
donc,
mais c'est une nouvelle façon de voir.
500 euros pour port de couteau.
Et surtout, c'est que les mineurs ne le paieront pas.
Comme toujours.
Et c'est là où on a un problème, parce qu'il y a beaucoup de mineurs qui ont des couteaux.
Bon. Jean-Sébastien.
Juste sur l'arme de la réprobation sociale, je pense qu'il ne faut pas la balayer comme ça d'un revers de la main. Regardez, il y a des tas de gens qui ont arrêté de manger de la viande. Hein. Il y a des gens qui ne prêtent plus l'avion. Il y a des gens parce que précisément, il y a un discours qui s'est mis en place de culpabilisation. Alors après, on peut discuter de l'intérêt de le faire au nom de la planète,
ou en tout cas de l'intérêt de l'X ou X mesure. Mais ça ne marche pas jusqu'à présent. Voilà, c'est tout.
Mais parce qu'on ne l'a pas fait. Parce qu'on l'a pas fait. Enfin, M. Valigny vient de le soutenir, vient de l'expliquer aussi à l'instant, précisément.
Il y a peu de campagnes de pub.
Parce que ça fait de vous. vous un vieux ringard quand vous le dites, tout simplement. Exactement. Après, ne sous-estimons pas l'enjeu santé publique malgré tout. Il y a des comportements d'addiction qui ne peuvent pas se gérer comme ça. Un vrai comportement d'addiction, ça ne se gère pas par de la réprobation. Et il y a aussi un défaut d'investissement majeur de l'État sur l'aspect santé publique.
Les Anglais viennent sont en train de décider l'interdiction de la vente du tabac à tous ceux qui sont nés en 2009.
Après, 2009.
Oui, 2009. Donc, et après,
14
oui.
ans.
Pas juste ceux qui sont nés en 2009.
À partir de 2009 et les années suivantes. C'est-à-dire l'interdiction absolue d'acheter, ils n'auront pas le droit d'acheter un paquet de cigarettes.
Pour toujours ?
Oui, pour toujours.
Pour toujours ?
Radical.
Ah oui, parce que mais j'avais pas compris le côté.
L'argumentaire du gouvernement conservateur, mais c'est un gouvernement conservateur, c'est le pays de Churchill. Où on fumait le cigare, qui fumait le cigare, comme vous le savez.
Qui faisait jamais de sport.
C'est un pays de liberté, donc individuel, hein, qui considère que c'est sacré, la liberté. Et bien pourtant, il décide que vu l'effondrement du système de santé publique, vu la ruine et le coût extravagant de tous les cancers liés au tabagisme, eh bien on prend des mesures drastiques, très contestables. Hein. Mais
en même temps, pourquoi pas
quand on fait le calcul global, les fumeurs meurent plus jeunes. Donc non, mais c'est malheureusement des calculs qui ont été faits.
Quel calcul macabre.
Y compris il y a le coût des traitements.
Mais bientôt on va interdire les carambars aussi parce que.
Ah non, mais je suis d'accord avec vous. Moi, je pense que c'est absurde parce que les trafics apparaîtront.
C'est effectivement un engrenage assez sidérant. Notamment
surtout que c'est assez cynique comme décision. C'est juste pour préserver le système de santé. On est d'accord.
Enfin, c'est même pas pour préserver, c'est pour vivre avec son effondrement.
Oui, oui. Moi, je connais des gens qui mangent des. Oui.
Monsieur Valigny.
Qui mange quoi? Mais moi, je suis surpris par cette mesure. Ça veut dire que si on est né avant 2009, on peut continuer à acheter des.
Oui. Ah oui. Parce que vous êtes dépendant. Et si on est né après, non.
Quoi, vous voyez un trafic.
Il y aura un marché noir. Oui, c'est bien sûr. Les gens vont en acheter puis en revendre à ceux qui sont nés après 2009.
Juste pour information, en France aujourd'hui, où la cigarette est en vente légale, quand même. Donc. Oui. Fortement
taxé. Il y a combien le paquet, vous qui avez arrêté, je crois, il y a longtemps ?
11 euros.
Voilà. 35% des fumeurs achètent au marché noir.
Et c'est pire d'ailleurs, parce que ce sont des cigarettes avec les produits actifs qui restent.
Oui, c'est beaucoup des pays de l'Est. Il y a aussi des. Alors ça fait 2 milliards d'euros, mine de rien, le trafic, ça rapporte 2 milliards d'euros. 35% des fumeurs donc qui vont au marché noir. Il y a effectivement des usines entre guillemets cigarettes qui sont en France qu'on démantèle. Ouais. Faut savoir que pendant 6 mois vous enfermez des gens des pays de l'Est pour qu'ils travaillent, pour qu'ils confectionnent des cigarettes. Le tabac est à même le sol avec les crottes de rats, de souris, des urines. Enfin, je vous raconte pas ce que vous fumez. Mais bon, c'est moins cher donc les gens sont prêts à acheter ça. Allez à Porte de Montreuil et Porte de Bagnolet, vous allez voir, c'est que les cigarettes Bled. On vous vend cigarettes Bled, etc. Donc en fait, il y a et c'est 17 milliards d'euros pour l'État, en fait, si vous voulez, de la TVA. Et donc, il y a une perte sèche de 7 milliards d'euros pour l'État.
Interdire le tabac, voilà une option quand même. Hein.
Mais le problème, c'est que c'est compliqué d'interdire quelque chose qui a déjà été légalisé.
Oui, surtout quand ça rapporte à l'État, ça on a bien compris.
Par ailleurs, dès lors que c'est interdit, si vous le légalisez et qu'après vous le faites marche arrière, c'est très compliqué. Ça se fait, la Thaïlande le fait, parce qu'ils sont revenus en arrière, ils se sont rendus compte que de toute façon ils étaient dépassés et que ça avait fait l'effet inverse de ce qu'ils attendaient. Et donc en fait c'est très compliqué. Donc du coup, c'est pour ça.
Ok, Geoffroy, un dernier mot ?
Le tabac c'est très mauvais, mais ça, personne après avoir fumé une cigarette n'a écrasé quelqu'un en voiture ou n'a pris son couteau pour aller planter quelqu'un. C'est peut-être la petite différence quand même. Et pour revenir sur la sociale dont parlait Jean-Sébastien, non seulement on n'a pas essayé, mais surtout on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, on a valorisé ça énormément dans la culture populaire. Fumer un joint, c'est super sympa. Bob Marley, il est génial. Et d'ailleurs, il était défoncé tout le temps, mais en fait, c'est pas grave parce que c'était un grand musicien. Et la vérité, c'est moi, j'ai grandi avec ces images-là. Et finalement, je me rends compte aujourd'hui que c'est très mal, très dangereux et qu'il y a toutes ces conséquences parce qu'on travaille ici sur les sujets de trafic, etc. Mais en fait, sinon, je serais passé à côté.
Merci à tous les cinq d'avoir participé à Punchline sur CNews et sur Europe 1 dans un instant. Europe 1 soir et Face à l'info sur CNews. Bonne soirée. À vous sur nos deux antennes. À demain. Check.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.